Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Au bout du foot sur Mon Paris FM. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien installés et j'espère que vous êtes prêts pour cette émission qui va commencer. Hein, tout simplement, on a vu Toulouse. Moi, ça me fait penser à Toulouse. Je sais pas pourquoi quand je te vois maintenant, Jason, je pense tout de suite à Toulouse. Comment ça va, Jason ?
Ça va et toi, Elad ?
Ça va, bonne semaine de football ?
Ça a été.
Ça a été, ça va, dans l'ensemble ?
Dans l'ensemble, ça a été nickel.
Ça a été. On a vu du beau spectacle, en tout cas. Et je pense que c'est pas Ibrahima qui va nous contredire. Ibrahima, ça fait un petit moment qu'on t'a pas vu, Ibrahima. T'étais où ? Raconte-nous tout.
Non, j'étais là, un peu occupé. Vous connaissez le quotidien, etc. Mais on a suivi quand même et on va bien analyser tous ces matchs qui se sont déroulés cette semaine.
En tout cas, c'est ce qu'on va faire. Et Cheikh Kenza, comment ça va, Cheikh Kenza ?
Bien, tranquille, ça va.
Ça va, pas de cours d'anglais aujourd'hui ?
Non, pas de cours.
T'as été dispensé ? J'espère que t'as passé chez les cours quand même.
Non, ah. pas du tout.
Maxence, comment ça va ?
Ça va et toi, Eladj ?
Maxence, qui était à... C'est quoi le nom encore du stade du Barça ?
Montjuïc.
Ouais, je retiens pas trop. Mais c'est ça, t'étais à Montjuïc ?
Ouais, il y a 15 jours maintenant.
Il y a 15 jours. Ouais, mais comment t'as pas vu depuis ?
Le match contre Girona.
Ça va, tu t'es pas ennuyé ?
Non, 4-1, c'était
régalade, spectacle.
On est bien tombé, on va dire.
Vous êtes bien tombé, super. En tout cas, on va... Et cette semaine, t'as eu une bonne semaine de football ?
J'ai eu une bonne semaine de football, j'ai eu un week-end un peu plus compliqué, mais c'est les aléas, hein, c'est comme
c'est
ça.
C'est les aléas, c'est le football, hein. c'est un peu ça. Mais on va y revenir sur tout ça, on va commencer avec la Ligue 1. Le Paris Saint-Germain, qui n'ont pas joué, qui sont déjà champions de France, mais qui ont eu leur match reporté face à Nantes, et qui se jouera la semaine prochaine. Et bien évidemment, on a eu le droit à la Ligue des Champions. On va y revenir aussi, hein, cette belle Ligue des Champions qui nous a surpris et qui nous a donné des bonnes sensations. Et on espère que ça va continuer comme ça, en tout cas surtout avec les matchs à venir pour demain et après-demain. On a eu aussi, on va commencer tout simplement avec, on va commencer avec la Ligue 1. La Ligue 1, Marseille qui se sont fait corriger face à une belle équipe de Monaco. Hein, et c'est ce qu'on disait, hein, parce que Maxence, on avait ce débat, tu t'en rappelles, il y avait à peu près un mois, on avait ce débat et on se disait, est-ce que Marseille sont deuxième ? Et tu as été confiant, Marseille, tu penses que ça serait les dauphins du Paris Saint-Germain et que ça allait le faire tranquillement. Aujourd'hui, est-ce que tu penses que ça va le faire aussi aisément que tu le pensais il y a un mois?
Alors en fait, je me demande quand est-ce que l'OM va sortir du podium. Parce que là, sur les 7 derniers matchs, on est à 5 défaites de l'OM.
Exactement.
Et malgré ça, l'OM est toujours 3e, toujours qualifiable en Ligue des Champions. Donc c'est dire la marge, entre guillemets, que l'OM avait sur ses concurrents sur la période. Et l'OM, on va dire, est crédité de son bon début de saison et une première partie de saison à plus de 2 points par match, à distance, on va dire, correcte du PSG jusqu'à janvier. Et Marseille s'appuie encore là-dessus. Mais là, ce qu'on voit depuis un mois, c'est catastrophique.
Bah,
c'est...
En fait, là, en une journée, tout simplement, Marseille peut se retrouver 6e.
Ouais, mais la journée, elle est contre Montpellier.
Ouais. Non, en une journée, je dis juste qu'en une journée, en gros, même
non,
si c'est pas la prochaine.
Strasbourg, voilà. Etc. Enfin, il y a des
confrontations. Tu regardes Strasbourg, ouais. Oui, il y a des confrontations directes. Mais en une journée, ça peut quand même basculer, quoi.
Ouais, ouais. Voilà. Mais après, mais même si t'es 6e, tu seras encore à un point ou deux devant. Donc en fait, à mon avis,
oui,
ça va. Tout va être jouable jusqu'au bout. Les calendriers sont difficiles pour
tout
le monde.
C'est sûr, mais comme en fait, ils avaient un siège.
Ouais, un matelas
bien confortable. Et on se disait que ça allait le faire, que ça allait continuer comme ça. Et là, franchement.
Mais en fait, l'accident de parcours pour moi, enfin Monaco, c'est un match qui est très mauvais. Hein, mais c'est un match qui peut arriver dans une saison. Tu perds contre un concurrent direct, tu les as battus à l'aller, ils te battent au retour. Voilà, c'est pas là que ça se joue.
De cette façon, quand même.
La manière est terrible. Mais pour moi, c'est plutôt le match de Reims sur lequel j'ai des choses à dire. Le match de Reims 15 jours avant, parce qu'il y avait Toulouse entre les deux. Le match de Reims, il est catastrophique. Et là, tu perds contre une équipe qui a pu marquer depuis 6 matchs, qui n'existe pas. Et donc
et
ça,
qui
c'est
en mettent 3.
Et ça, c'est une défaite.
Et généralement, même les défaites de Marseille, là, dernièrement, à part, je crois, contre Nantes où tu perds. Non, contre. À part contre. Attends, je vais ressortir.
Non, contre Lens, tu perds 1-0.
Tu perds 1-0, mais tout sinon, le reste, t'encaisses au moins 3 buts.
Tout le temps, c'est 3 buts.
Ouais, c'est
voilà.
Et que des débats.
Et c'est là que ça.
Aussi.
Et c'est là que ça met pour moi, ça met en valeur la saison de Balerdi. Ouais. Parce que la saison de Balerdi, on l'a beaucoup critiqué quand il était là, etc. Mais le métier de Balerdi dans cette défense à 3 sous deux Zerbi, avec l'entourage qu'il a, il n'est pas facile. Son métier, il n'est pas facile. On voit que quand c'est lui, il doit s'occuper de la relance, il doit s'occuper de la couverture. Il doit s'occuper du positionnement de la ligne de défense de ses coéquipiers. Et on voit que sans lui, là, c'est porte ouverte de tous les côtés. Ils en prennent 3 par week-end. Et encore, Monaco, ça en prend 3, ça peut en prendre 5 ou 6. Hein. C'est porte ouverte totale. Si t'as pas un roulis qui est plutôt correct et un peu de maladresse des monégasques, tu peux finir à 5-6 assez tranquillement.
Ouais. Malgré le pénalty créé par Rulli, qui fait un bon match quand même dans l'ensemble. Il sauve pas mal.
La frappe de Lamine Camara qui se dirige dans la lucarne. Il a rien à dire sur Rulli cette saison. De toute façon, s'il y en a un à sauver, c'est lui. Hein, donc j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Par contre, ouais, ça devient inquiétant. Et au-delà du jeu, c'est le comportement de certains joueurs qui posent question, que ce soit Greenwood, Luis Enrique. C'est des mecs qui se sont vus arriver, je sais pas, mais qui pensent que leur talent va faire la différence. Donc il y en a un des deux qui a beaucoup de talent, hein, qui en a un peu moins.
Tu fais référence à
Greenwood qui a quand même montré que malgré toutes les critiques que j'ai à lui émettre, il a quand même beaucoup de talent. Et il a fait basculer pas mal de matchs cette année, y compris le dernier contre Toulouse la semaine dernière, par son talent individuel. Luis Enrique, depuis janvier, ce qu'on voit, c'est catastrophique. C'est catastrophique dans l'investissement. Il est piston, il revient jamais défendre. Il défend en trottinant, voire en marchant. C'est à la limite de la faute professionnelle.
On a pu voir aussi des médias en parlant, en tout cas des rumeurs grossir, comme quoi c'était les deux joueurs que le vestiaire voulait exclure, notamment Hojbjerg qui a milité pour l'exclure avec le soutien de Adrien Rabiot pour sortir ces deux joueurs-là, parce qu'il disait si en gros nos objectifs de fin d'année ne seront pas maintenus, si ces deux joueurs continuent à s'investir de telle façon, et du coup il faudrait les mettre à l'écart. C'est ce qui revient souvent sur ces deux joueurs-là. Luis Enrique, on pense qu'en fin de saison il va partir. Parce qu'on a pu voir tout simplement l'Inter de Milan qui sont intéressés. Des équipes qui pensent le façonner en tout cas.
C'est
hein,
bien, c'est bien.
Parce qu'il a montré quand même
des choses que j'ai pas vues, mais c'est bien.
Ouais, en première partie de saison, il faut le dire.
Des choses correctes, mais de là à jouer à l'Inter Milan, il y a quand même un step.
Oui, mais après tu façonnes. Enfin, un jeune joueur aussi. C'est un jeune joueur.
Oui, on verra.
Tu le façonnes derrière.
Mais moi, ça m'étonne pas que Højbjerg et Rabiot ils prennent. Ce chemin-là au niveau de la pensée et de ce qu'ils veulent pour l'OM. Et bizarrement, c'est les deux seuls qui ont connu des grands clubs dans cette histoire. C'est les deux seuls qui ont vraiment fait des grosses carrières, internationaux, cadres de leur sélection, du moins joueurs importants de leur groupe d'équipe nationale, qui ont joué avec des champions régulièrement, avec le Bayern, avec Tottenham pour Højbjerg, avec le PSG, avec la Juve pour Rabiot. Et c'est eux qui connaissent le haut niveau dans ce groupe-là. Et ils te disent, en les voyant au quotidien, ces deux mecs-là, on n'atteindra pas nos objectifs qui sont que nationaux, avec ces deux mecs-là dans l'effectif. Donc moi, je fais confiance à ces joueurs-là. Et pour moi, ça ne m'étonne pas que ce soit des poisons pour le groupe. On ne voit que les matchs, mais leur investissement en match en dit long sur ce qu'ils doivent produire à l'entraînement la semaine.
Merci Maxence. Ibrahima, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de tout ça, hein, de ce qui se passe autour de Marseille, hein, parce qu'il y avait aussi des rumeurs sur De Zerbi, hein, De Zerbi qui parlait pas mal, en tout cas qui s'était pris la tête un peu avec son vestiaire, on disait que son vestiaire ne le suit plus, il y a beaucoup de choses qui sont sorties dernièrement, et là avec les mauvais résultats aussi, ça doit pas s'améliorer. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Et après tu nous feras bien évidemment aussi ton analyse sur cette journée de Ligue 1.
Bah moi, concernant l'Olympique de Marseille et De Zerbi, j'ai l'impression qu'ils n'ont jamais compris en fait réellement ce coach. J'ai l'impression qu'il y a une réelle incompréhension entre les joueurs et les idées que De Zerbi a et ce que les joueurs produisent sur le terrain. Il n'y a qu'à voir depuis le début de saison, il n'y a pas réellement d'identité propre à cette équipe. Ça gagnait de temps en temps, mais ça se reposait quand même pas mal sur des individualités parce qu'il y a quand même des joueurs comme Rabiot qui, malgré tout, fait une très bonne saison, moi je trouve personnellement. Des joueurs comme Højbjerg qui sont là, qui ont de l'expérience et qui réussissent à prouver chaque week-end pourquoi ils ont joué au haut niveau. Mais sinon, pour les autres joueurs, même quand ça gagne, moi, j'ai jamais réellement vu une identité propre à l'Olympique de Marseille, contrairement à d'autres équipes dans le championnat. Après, pour revenir sur les récentes défaites, et plus particulièrement celle de ce week-end, Monaco a tout simplement été supérieur, hein, et sans réellement forcer, c'est ce qui est inquiétant. Et l'un des plus grands points faibles de l'Olympique de Marseille cette saison, c'est la défense. Parce que quand on a des joueurs comme Garcia ou... je les confonds à chaque fois. Il y a Ulysse Garcia et Murillo. Voilà, je les confonds. qui réussissent à faire passer Balerdi pour un grand défenseur, c'est que c'est quand même assez compliqué. On a Kondogbia qui joue défenseur central depuis quelques temps maintenant, alors que c'est pas son poste. À chaque fois, qu'on voyait Monaco s'approcher de la surface marseillaise, on sentait qu'il pouvait y avoir but, en fait. Et comme Maxence l'a dit, ils auraient pu en mettre 5 ou 6. Donc, il y a un réel problème défensif côté marseillais. Je pense que le mercato hivernal n'a pas arrangé les choses, parce que ramener un joueur comme Bennacer, par exemple, c'est un très bon joueur, Bennacer, il n'y a pas de souci. Hein, mais...
Et surtout Luis Felipe.
Oui, Luis Felipe.
Que tu recrutes pour la défense centrale et que tu vois plus.
Il est trentenaire, il me semble. Il en Arabie Saoudite, il a fait un match. Il est blessé depuis qu'il est là, je ne comprends pas ça aussi. Dedic, je ne le trouve pas... Il n'est pas exceptionnel.
C'était permis de lâcher Brassier et Baumeite, qui étaient certes pas des grands joueurs.
C'était justifié quand même.
C'était justifié sur 6 mois, mais tu peux le mettre dans la rotation et il peut te faire le taf plus que Kondogbia pour moi ou plus que.
Après, je pense que c'est la pression.
Non, mais Brassier, pour le coup, si je peux finir, c'était vraiment, vraiment, vraiment. C'était pas.
C'était
il avait, je
pression,
pense
ça.
Même qu'il avait plus la tête là-bas et qu'il a, pas su, il a jamais su se faire à la vie marseillaise, tout simplement. Mais ouais, sinon, il y a des gros problèmes. Et pour revenir sur les deux joueurs que tu as cités qui sont Greenwood et Luis Enrique, bah moi aussi, cette saison, Greenwood, ça lui arrive de marquer, etc. Mais je l'ai jamais trouvé fantastique, finalement, en fait. On sent qu'il a du talent. On sent clairement que même sur ses prises de balles, etc., on sent que si c'était pas passé tout ce qui s'était passé, il ne joue pas à l'Olympique de Marseille, normalement, ça, on ne va pas se mentir là-dessus. Mais sur ce qu'il fait depuis cette saison, moi, je le trouve pas, je sais pas, une certaine nonchalance, je trouve, dans son jeu qui me dérange un petit peu, moi. J'ai l'impression qu'il, comme tu l'as dit, se croit déjà arrivé. Et après, concernant Luis Enrique, faut pas oublier qu'il y a deux ou trois ans, on l'avait reprêté à Botafogo, quoi. Donc. Ouais, c'est très compliqué pour l'Olympique de Marseille. Même l'attaque, enfin, je sais pas moi, Guiri, j'ai pas compris pourquoi il a pas commencé.
Il était blessé.
Ouais, après tu le fais rentrer.
Bah, il pouvait pas tenir une heure et demie, je crois, mais.
Ro, moi, je sais plus quoi en penser.
Bah, Ro, surtout,
après,
il a pas joué dans son. Ouais, il a pas joué à son poste, hein, parce que moi, quand Ro.
Ah, même quand il est
rentrer...
bien utilisé, lui aussi, souvent, il fait
après,
preuve de nonchalance. C'est assez consternant.
Après, il joue que des bouts de match. C'est compliqué de t'intégrer dans une équipe quand tu joues 20 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 15 minutes, après d'un coup, on te met en pointe alors que t'es un ailier. Ah,
en plus, on l'a vu faire de bonnes rentrées. Moi,
c'est
j'ai
ça.
Vu faire.
Il a subi le changement de système. En fait, c'est un ailier de 4-3-3. Donc, quand on a démarré en 4-3-3, il était très fort. Avec en point d'orgue le match contre Lyon, où il met le but de la victoire à la fin, etc., en partant de la gauche. Mais après, quand De Zerbi est passé dans ce système en 3-4-2-1, là, Ro, il a subi ça parce qu'il s'intégrait pas dans le système, en fait.
Mais après,
il trouve pas sa place.
Mais après, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un réel problème. Moi, je pense qu'il y a une réelle incompréhension entre ce que le coach veut mettre en place et ce que les joueurs comprennent. Ou peut-être qu'ils sont tout simplement pas au niveau pour pouvoir jouer avec les tactiques qui sont données par le coach, tout simplement.
Bah après, parce si qu'à, on remarque
parce que,
bien...
Parce que quand on voit Brighton, par exemple...
Après, il a besoin de temps.
Et quand
aussi.
On voit...
À Brighton,
du temps, mais
il a
là,
eu du temps pour se mettre en place. Au Shakhtar,
sûr,
pareil. À Sassuolo, pareil.
On peut pas
à Marseille,
autant de
le
défaites.
Problème, c'est qu'on... Bah, pas autant de défaites. Au final, t'es encore troisième. Hein. Donc, t'es encore dans
non,
tes objectifs de début de saison.
T'en prends 3 par match, quand même.
Là récemment,
pas
ouais.
Cadors,
mais
en plus, hein.
Au final, c'est que ta saison, elle est pas si pourrie que ça. Parce que tout le monde vante la saison de Lyon, par exemple. Lyon, ils sont encore derrière. Malgré toutes les mauvaises performances de l'OM.
Je sais, mais tu
donc, c'est que t'as pas fait que de.
Après, Lyon, c'est aller-retour contre Auxerre, quand même.
Après, le gros problème, c'est qu'il y a quasiment aucun joueur qui joue à son poste.
Oui, ça c'est vrai.
C'est ça le gros problème, c'est que malgré la grosse masse salariale et le budget de l'Olympique de Marseille, tu fais un recrutement en fait où tu ne mets pas des joueurs à leur poste.
Parce qu'en fait, tu as recruté pour un 4-3-3
exactement,
en disant Rabiot va jouer à gauche dans mon milieu
à 3,
etc.
Et au final, tu joues avec
9,5-10.
Exactement, et c'est pas du tout son poste.
Exactement.
Certes que lui, cette année, il fait une bonne saison. Mais le reste de l'équipe, ça fonctionne pas.
Et on a l'impression que De Zerbi, il veut pas revenir en arrière. En se disant, j'ai changé, je suis passé à 3. Il veut pas revenir à son 4-3-3, alors que ton effectif, il est fait pour ça, en
c'est
vrai.
Ça.
Avec Guiri devant, Rose sur les côtés, Greenwood, Luis Enrique, des mecs qui vont vite, et un milieu solide avec Højbjerg, avec Rongier, avec Bennacer, avec Rabiot, avec ces joueurs-là, quoi.
Mais le mercato hivernal n'a pas arrangé les choses côté Marseille.
Ouais, ça,
il a même aggravé les choses.
Ça a aggravé les choses. Parce que...
Après, il faut solliciter quand même la venue de Guiri, qui est très,
oui,
très beau.
C'est vrai.
Parce que
ouais,
devant, ça manquait. Franchement, devant, ça manquait. Même Mopé, c'est bon, mais bon, c'est pas assez tueur. Guiri, c'est bien pour combiner. Il s'est effacé, il s'est marqué. Il sait faire des choses. C'est un attaquant qui sait aussi se démerder tout seul sur le front de l'attaque. Donc, ça manquait de ça aussi du côté de l'Olympique de Marseille.
Comme on disait sur Rouli, s'il y en a 3-4 joueurs à sauver, Guiri, il est dedans aussi sur la saison, sur la demi-saison qu'il fait. Il est irréprochable pour moi.
Je crois que la carence de Marseille, c'est plus défensif qu'offensif, en fait.
Ouais, c'est vrai.
C'est là le problème, est défensivement, même si offensivement, c'est pas, en fait, c'est pas fond blanc comme on le souhaite, mais si tu n'en prends pas quand même, tu peux quand même gratter des points au final, en fait. Parce qu'une saison, elle est longue et ça se joue aussi sur le mental à un moment donné. Si là, à chaque moment, tu prends des scores fleuves et tout ça, bon, ça ne sera à rien en fait de terminer sur le podium et récidiver encore l'année prochaine. Voilà, parce que les compétitions européennes, ils sautent tout le temps au premier tour. Donc, c'est mieux vraiment de construire quelque chose de solide.
Les compétitions européennes, l'année dernière, tu fais demi-finale. Hein.
On parle de Ligue Europa, ça c'est C3, mais la C1, on connaît.
Ah, je sais pas, compétition européenne pour moi, c'est.
Tout en tout, voilà, mais la C1, vraiment, c'est ce que Marseille souhaite en fait. Le support de Marseille et tout ça, ils souhaitent vraiment rejouer la C1, pourquoi pas, voilà, essayer d'aller jouer peut-être un quart ou un huitième de finale avec la nouvelle formule, mais les choses vraiment ne se passent pas comme on le souhaite du côté de la Canebière parce que, je crois que Desherby a du pain sur la planche. Déjà, le chantier il avait bien commencé, les bases étaient déjà là. Mais il faut encore essayer de revoir un peu les ajustements des côtés et tout ça.
Mais je ne sais pas vous, mais je le sens particulièrement agacé, moi, même très tendu. Ça ne m'étonnerait pas qu'il ne reste pas la saison prochaine.
Ouais, je crois partir au Milan.
Je crois qu'il peut gérer aussi, hein, parce que oui, c'est normal, en fait. Quand on a un plan de jeu qui est mis en place et après, ça ne suit pas. Donc, au bout d'un moment, oui, c'est comme ça. On peut tirer un peu sur les ficelles, les côtes, c'est normal. C'est humain. Oui, c'est humain, mais après, on se dit que... Ouais,
moi, je pense qu'il avait sous-estimé la Ligue 1. Comme beaucoup d'entraîneurs étrangers. Il est arrivé en disant, en première ligue, il a pu mettre son jeu en place, etc. Mais parce qu'en première ligue, il y a beaucoup d'équipes qui ont une idée de jeu aussi et te laissent produire ton jeu. En France, toutes les équipes, à part le PSG Monaco, globalement, elles leur ont dit on t'attend, fais ton jeu, fais tes passes.
On met le bus, et par contre,
en contre, on va vite. On a 2-3 mecs qui peuvent faire des différences.
L'exemple client, c'est contre Auxerre, par exemple.
Exactement. Et c'est pas le seul à s'être fait piéger comme ça. Il y a beaucoup de coachs étrangers. L'ancien de Lyon, Peter Bosch, qui s'était fait avoir aussi comme ça. Alors qu'on voit que c'est un bon coach au final. Il fait des belles choses. Mais les mecs sous-estiment un peu la Ligue 1 en se disant on va jouer à Brest, on va jouer à Toulouse, on connaît pas trop, etc. Mais dans tous ces clubs-là, t'as un ou deux mecs en contre, en transition, qui te font du mal.
C'est ça. Cheikh Kenza, est-ce que toi, tu peux nous dire ce que t'as pensé aussi de la journée de la Ligue 1 hein ? Y a Lyon qui se sont imposés à Auxerre, 3-1, avec un but de Mikotadze sur penalty plus une passe décisive. La Cazette aussi qui a été buteur. Qu'est-ce que t'en as pensé globalement du match et même de la journée de la Ligue 1 ? Quel match a retenu ton attention ? Je rappelle les scores. Monaco 3-0 face à Marseille, on en a parlé. Reims face à Lens, 2-0. Strasbourg-Nice, 2-2. Nice qui arrache le nul, mais qui n'arrive toujours pas à gagner. Et Brest-Saint-Etienne, un match aussi fou où il y a eu 6 buts, il y a eu 3-3. Un autre match où il y a eu 6 buts, c'est le match de Habib Bey avec Rennes où ils sont imposés face au Havre 5-1. Et les Rennais qui sont en train d'assurer leur maintien très rapidement. Du coup, l'adaptation a été très rapide pour Habib Bey. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de tout ça en
Ligue ? Ouais, je crois que la Ligue 1 cette semaine, ça a été prolifique. On a vu des bons matchs et tout ça. Peut-être hormis la déconvenue de Marseille, en fait. Après, les autres matchs ont été un peu équilibrés dans le sens du jeu et tout ça. On a vu des belles séquences, c'est ce qu'on a envie de voir. Mais par contre, on a vu aussi des équipes en fait, qui sont un peu dans le dur. Par exemple, comme Nice, en fin de saison, au début de saison, ça allait bien et tout ça, les choses se passaient bien. Avec Evan Guessant et tout ça, une équipe vraiment était joueuse, avec Jérémy Boga, un collectif.
Toi, tu vas toujours parler que des Ivoiriens quand tu parles d'une
équipe. Non, mais en fait,
c'est ça. Kenza, faut que tu changes ça. Non, vraiment. Faut que tu arrêtes ça.
Il y a beaucoup de joueurs là.
Non, mais faut que tu arrêtes ça.
La séance dernière, je parlais des joueurs de Strasbourg. Je parlais des joueurs de Strasbourg. Là,
t'as pas Ravache. Des Ivoiriens là-bas.
Non,
c'est ça que
je te dis. Il y a Guiradoué là-bas.
Voilà,
c'est ça. Non, mais après, c'est le côté patriote qui
peut. Il y a l'attaquant aussi, là. L'autre, là. L'ailier, la façon, là. Bref.
Bah quoi ?
Non, il y a un autre ailier, là, un Ivoirien, là.
Dans quelle équipe ?
À Strasbourg.
Ah bon ?
Ouais, ouais.
Je sais pas. Non, parce que c'est semble... Bakwa.
Ou peut-être je confonds avec.
C'est Bakwa
de...
et c'est un jeune anglais.
Moi, ça fait vraiment que.
Ou je confonds avec celui de l'Auxerre, je crois. D'Auxerre.
Traoré.
Je parle très peu d'eux, en fait.
Mais bon,
en tout cas, vraiment, on a vu du beau football, comme ce qu'on aime et tout ça. Et on voit que la Ligue 1 progresse, mais hormis qu'il y ait un écart qui s'est créé entre le PSG et les autres équipes, c'est normal. Parce qu'il faut aussi respecter une hiérarchie. On comptait vraiment sur Marseille et au final, on est un peu déçus. Parce qu'il n'y a pas que Marseille, moi aussi je me disais que Marseille au moins, en fait, ils allaient au moins maintenir les places de Dauphin et tout ça, mais ce qu'ils présentent là, c'est un peu lamentable et tout. Après, il y a des équipes aussi qui bousculent aussi, comme tu as dit, Habib Bey qui fait un beau travail à Rennes. Voilà, un travail vraiment qui a félicité et tout. On ne s'y attendait pas, surtout moi, en fait, parce que déjà, quitte au Red Star et gravit déjà la marche comme ça, les échelons, et arrivant au Stade Rennais en Ligue 1 et tout ça, une équipe qui était dans le dur, dans la difficulté extrême et tout, et qu'il arrive déjà à redonner la confiance des joueurs qui arrivent à s'exprimer, un collectif qui brille. Et, en tout cas, c'était un bon week-end de football, j'ai beaucoup apprécié.
Merci, Cheikh Kenza. Jason, Dis-nous ce que tu en as pensé de la Ligue 1, de tout. Je pense que tu as beaucoup de choses à dire. Hein. Vas-y,
ce que je retiens surtout de ce week-end, c'est le match de Strasbourg-Nice. Ça a été un très beau match avec beaucoup de buts. Et toujours la même chose chez les Strasbourgeois, avec une première mi-temps, malgré qu'elle soit maîtrisée, toujours un peu en dedans. Et la deuxième, j'ai l'impression, je ne sais pas ce qu'ils prennent dans le vestiaire, ils ressortent en mode super guerrier.
Ouais.
Et la deuxième mi-temps, ils ont été méconnaissables et ils ont su reprendre le dessus, même si ils ont pris une égalisation à la fin. Ce qui m'a fait rire, c'est ce que Bakua, je ne sais pas si vous avez entendu ce que Bakua avait dit. Envoyer les caméras dans le vestiaire, on est déjà prêt à danser et bim, derrière, imagine.
Il dit ça à la 93e et il prend le corner une minute après. Ouais.
Exactement, et derrière, ils prennent une clim, ça m'a fait un peu rire.
Douche froide.
Et après, j'ai bien aimé le match de Lyon. Franchement, Lyon, ils m'ont choqué hier. Une très très belle équipe de Lyon. Il a aligné tous les offensifs. Il ne s'est pas pris la tête. Surtout que gagner à Auxerre, c'est pas facile.
C'est pas facile.
À l'abbé Deschamps, c'est tout.
C'est pour ça qu'il a envoyé, je crois, la grosse artillerie directement. Il s'est dit.
Parce que franchement,
faut pas faire dans le détail, malgré le match qu'ils vont disputer en Ligue Europa.
C'est ça, avec un gros Cherki. Ouais. Très gros match de Cherki. Franchement, il m'a régalé.
Mais Kotadze, moi, j'ai beaucoup aimé.
Ouais, mais Kotadze aussi, il a fait très, très mal.
Là, franchement, ça peut faire très mal.
La Cazette, un peu moins. Je pense que la Cazette,
après, il est sur la fin.
Il traîne un peu la patte.
Mais Cherki, je pense qu'il faut profiter parce que quand dans 6 mois, on le verra ailleurs, on dira « Ah ouais, on a eu de la chance de le voir en Ligue 1, etc. » Là, c'est ses derniers matchs en Ligue 1, on va pas se mentir, les 3-4 qui arrivent. Il faut profiter de le voir, c'est le genre de joueur pour lequel on allume la télé quand même. Donc Faut profiter et puis après on le regardera à l'étranger pendant 10 ans et ou 15 ans. Mais
excellente saison de Tolisso aussi.
Ouais, super bien.
Quasiment
décisif.
Lida aussi dans le groupe et tout ça qui assure aussi en fait.
On sait pas qu'elle va revenir.
Entre une génération en fait, entre la génération Lacazette et tout ça et la nouvelle génération. C'est bien aussi parce que du côté de Lyon, les cadres aussi prennent la responsabilité en fait. C'est ce qui vraiment a beaucoup changé et tout ça. On a vu que oui, peut-être qu'il y a quelque chose qui a dû se passer. Peut-être voilà, peut-être un sursaut d'orgueil, un truc de ce genre. Parce qu'à un moment donné, quand on a la ramasse, voilà, il faut remonter les troupes.
Et là, c'est ce qu'ils ont fait. On pense notamment à Grosso. Un Grosso, d'ailleurs, qui vient... on lui fait un petit clin d'œil. Un Grosso qui est remonté avec... qui a beaucoup été décrié sur ce plateau, Grosso. Du coup, on lui fait un petit clin d'œil à Grosso qui est remonté avec Sassuolo en Serie A. Je pense qu'il a trouvé, je crois, son championnat et plus son genre d'équipe, on peut dire ça comme ça. Mais voilà, Jason, c'était pas pour te couper. Vas-y, continue.
Et après la grosse affaire de Habib Bey, je pense qu'il a assuré le maintien de Rennes. Ouais. Parce que vu le calendrier du Havre, je pense que ça va être très compliqué pour eux-mêmes de marquer 6 points dans ce calendrier-là. Parce qu'ils affrontent quasiment que des concurrents à l'Europe. Donc ça va être la bagarre entre eux et Saint-Etienne pour la place de barragiste. Après, je pense que Angers, ils ont fait la bonne affaire en gagnant ce week-end, histoire de souffler un petit peu pour éloigner les concurrents au maintien. Et Saint-Etienne-Brest, ça a été un bon match aussi. Hein. Saint-Etienne-Brest, un bon match, deux équipes bagarreuses. Saint-Etienne très difficile à domicile. Après, je ne sais pas s'ils arriveront à faire la même chose lors du derby face à Lyon, mais je demande à voir.
Parce que là Lyon, c'est costaud. Hein. Je
crois que... Merci, Jason. Il y a Reims aussi qui se sont imposés 2-0 face à Lens. Oui. Lens qui traîne la patte aussi un peu. Hein. On peut le voir. Et là, franchement, il y a aussi Diawara, Samba Diawara, côté Reims, qui a récupéré Reims, qui a fait des mauvais débuts au début. Et là, franchement...
Il commence à comprendre son équipe. Il comprend que son équipe est limitée, surtout qu'il a eu beaucoup de blessures. Mm. Donc, on a vu son système. Hein. Il attend, comme il a fait contre Marseille. Et après, Nakamura et tout, ça part vite en contre.
Après, là, c'est encore plus un braquage contre l'OM. Ah ouais, là, contre Lens, qu'ils font.
Lens, franchement, parce que Lens, ils ont eu des occasions.
J'ai même pas envie de mettre en valeur la prestation de Reims. En vrai, c'est bien, ils prennent les 3 points.
Parce
c'est
qu'en
génial.
Fait, Reims, mais... Lens, le match d'avant, ils font à peu près le même match.
Après, ils peuvent pas faire
1-0.
Ouais, mais là, c'est quand même. Il y a 4 d'expected goals pour Lens. Ils ont des occasions, mais des trucs de fou. Jouf, il fait un match de dingue. Jouf, c'est monstrueux. Mais pour moi, il n'y a pas de plan de jeu plus que ça.
Il n'y a pas de plan de jeu.
Même contre Lille, c'est un peu le même match. Ouais. Enfin, plus ou moins, parce que contre Lille, ils ont des occasions aussi. Mais ils sont en loop, je sais pas.
Il fait quasiment la même chose. Et même quand ils se qualifient en finale de Coupe de France, on joue contre Cannes, qui est une N1, ils jouent en dans le bus et ils disent on va aller au Stade de France, c'est pas le bus qu'on va mettre, c'est le tramway. Donc c'est pour te donner un peu l'idée de ce qu'ils veulent mettre en place. Après c'est très bien s'ils arrivent à se sauver comme ça. Hein.
Bah, on regarde Lens aussi, hein, lors des 5 derniers matchs, c'est 3 buts marqués. Hein. C'est gagner 1-0 contre Marseille. Bon après même c'est contre des bonnes équipes plus ou moins. 1-0 contre Marseille, 1-0 contre Rennes, ils perdent 1-0 contre Lille, 1-0 Lens contre Saint-Etienne et ils perdent 2-0 là contre Reims. Du coup ils peinent, la dernière fois qu'ils ont marqué 2 buts c'était contre le Havre le 1er mars, c'est plus de 2 buts et ils ont perdu quand même le match. Et
mais pour moi c'est plus un sujet d'inefficacité.
Oui c'est ça.
C'est plus ça que ça, la non-production de jeu. Oui, alors que Reims c'est vraiment non-production de jeu, efficacité maximale. Donc c'est très bien, mais
c'est le
pour
contrat,
moi ça
en fait.
Dure pas. Exactement.
Après le problème de Lens c'est qu'ils ont pas d'attaquant. Ils ont pas d'attaquant, ils ont pas de tueur depuis au printemps.
C'est limite.
Il fait une mauvaise saison aussi.
Franchement, c'est
ils
très
ont pris
compliqué.
Cet hiver.
Il avait bien commencé. Il a du mal.
Après, ça, c'est des attaquants de seconde zone. Ouais, il a beaucoup marqué en Bulgarie. Et dès qu'il est arrivé, il a mis son premier but. C'était l'enflammade. Après, ça y est, ça s'arrête.
Sur la durée, c'est compliqué.
Ouais, c'est compliqué.
Et puis, la Ligue 1, c'est pas si facile. Hein. On dit la Ligue 1, mais marquer en Ligue 1, c'est pas si facile. Parce qu'il y a des blocs bas qui t'attendent et tu passes 90 minutes de combat.
Mais d'ailleurs, le PSG n'a pas joué ce week-end. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, ça me dérange un petit peu quand même.
Moi aussi, ça me dérange.
Je crois que tout est mis en place pour que vraiment, voilà,
pour que la Ligue
préparée, voilà.
Après, ils avaient proposé même à Lyon aussi. Ils avaient proposé à Lyon
et
Lyon a refusé. Lyon a refusé de.
Mais pour moi, ça me dérange
pas.
Moi, ça me dérange pas si jamais le PSG a quelque chose à jouer et qu'on.
Oui, PSG sont
champions. Mais là, le PSG est champion. Qu'est-ce qui leur empêche d'envoyer les U19 ou d'envoyer les remplaçants?
Après, je pense qu'ils veulent garder leur record d'invincibilité.
Mais c'est plus par rapport à Nantes, moi, que ça me dérange dans la course au maintien.
Bah
de
oui.
se dire, c'était un avantage de jouer le PSG entre deux matchs de Ligue des Champions. Peut-être que Nantes aurait pu faire un coup, attraper un point du nul, etc.
Bah,
au final, ils vont les jouer à un autre moment, en pleine semaine. Donc Nantes va se taper 3 matchs en 8 jours et ça va les désavantager dans la course au maintien. Donc pour moi, c'est plus dans ce sens-là que le PSG qui est déjà champion de toute façon, donc qui gagne.
Oui, mais c'est l'avantage aussi, l'avantage de l'indice UEFA et tout ça. Donc il y a un truc aussi à préserver aussi, parce que là, quand on parle, en fait, ça représente aussi toute la France.
Mais je pense pas qu'en envoyant Zaïre Emery et Mayulu contre Nantes, tu perdes contre Aston Villa dans 3 jours, ça change pas grand chose.
Bah,
t'es pas obligé de mettre les mêmes joueurs, tu vois.
Oui, mais après aussi, peut-être que voilà, sans doute qu'en interne, il y a eu des choses qui s'en disent et tout ça.
Mais moi, je suis nantais, je l'ai mauvaise. Tu vois, je me dis, je joue mon maintien. Et je vais devoir me taper Barcola, Dembélé et Gonzalo.
Après, je ne sais pas si Nantes a eu son mot à dire sur ce sujet-là.
Si, parce qu'en première instance, ils avaient refusé. Ils sont revenus sur leur décision et ils ont dit oui.
Il y a eu un petit coup de fil de Nasser, ils ont dit oui.
Ouais, mais c'est quand même un aveu de faiblesse du championnat quand même. On est tellement pas habitué à arriver à ces niveaux-là en Ligue des Champions qu'on est obligé de décaler des matchs.
J'imagine si tout le monde faisait ça.
Bah oui,
il
n'y
aurait pas de match de Liga en fait. Parce que
ils ont joué sur
Bilbao ne jouerait pas, le Barça ne jouerait pas.
Non, mais le Real,
ils ont tous en même temps, s'il vous plaît, ça devient inaudible. Pas tous en même temps.
Le Real a demandé, ils ont pas accepté.
Oui, bah voilà, parce que le championnat est un championnat fort et que tu vas pas te priver de 3 ou 4 matchs parce que tu as 4 équipes qui sont engagées dans les compétitions européennes, ça ressemble plus à rien.
Non, mais par contre, ça a des avantages un peu l'équipe. En fait, parce que tout est mis en œuvre aussi pour que, en fait, pour préparer vraiment le retour dans une atmosphère hyper bouillante.
Parce que toutes les équipes jouent.
Bah oui,
vu qu'Aston Villa joue, si le PSG joue en même temps, ça ne désavantage pas. Ils ont
mais,
tout joué,
mais pour le Real, c'était différent. C'était pour amener le match à samedi.
Oui, on parle du Paris Saint-Germain là, et de la Ligue 1, s'il te plaît, chez Kenza. Jason, je te laisse conclure alors.
Moi, ça a été tout. J'ai fait le tour. Et voilà. Après, une très bonne journée de Ligue 1. Et il restera encore du suspense. C'est ça qui est intéressant.
En tout cas, il y aura du suspense, que ce soit dans le haut de tableau, à part champion, et dans le bas de tableau. Et voilà pour la Ligue 1. Je tiens à rappeler aussi un peu, s'il y a quelques personnes qui veulent s'exprimer là-dessus, le président de Montpellier, hein, qui a poussé un peu un coup de gueule au micro et qui a dit qu'il sentait qu'il y en avait qui étaient plus impliqués, hein, et qui étaient là que pour leur poire, pour rester poli. Et que l'année prochaine, ils repartiront avec un état d'esprit sain, avec des gens sains aussi. Et ce qui a beaucoup agacé un joueur montpelliérain qui s'est exprimé, j'ai plus le
Jordan
nom.
Ferry.
Jordan Ferry, voilà, qui s'est exprimé et qui a su directement par la presse que c'est eux, que son président venait de dire ça à l'antenne. Et du coup, il a même plus voulu s'exprimer et il est parti au milieu du truc. Il a dit, j'ai même plus envie de parler, d'une façon dégoûtée, et il est parti, quoi. Or que même le match de Montpellier ce week-end, c'était pas ridicule face à Angers. C'est juste, ils ont pas le niveau. Je pense qu'ils ont plus
le niveau.
Et ils avaient des joueurs comme Altamari, Arnaud Nordin, etc., qui sont tous partis. Hein. Arnaud Nordin, qui est déjà à Mayence. Ils avaient besoin de finances, mais aussi ça, voilà.
Ouais.
Après, il y a aussi eu des mauvais choix de Nicolin. Et il a raison de taper du poing sur la table. Hein. Mais c'est plus gros salaire du club à qui il a donné beaucoup d'argent. C'est Cazeri, c'est Delors, c'est Savagné. C'est
trois mecs,
qui sont en surpoids. Donc déjà, les mecs, ils touchent 250 000 euros par mois. Ils sont en surpoids, pas dans une condition de footballeur professionnel. Et ils s'en foutent complètement. Delors, cette semaine, il a raté 3 entraînements. Et il était à un tournoi de paddle. Il a dit qu'il était malade. Et en fait, il a été vu sur les réseaux et tout, tournoi de paddle le jour de l'entraînement. Non. C'est pas sérieux, en fait. Les mecs.
Non, mais c'est faire revenir Andy Delors, c'est une blague.
Le mec, il vagabonde partout.
Mais franchement, il jouait où? Il jouait au Mouloudia, je crois, à l'Algérie avant ça.
Ouais. Et faut savoir que Savagnier aussi, je pense qu'il voulait se racheter un peu auprès des Algériens. C'est pour ça qu'il est parti là-bas, Delors. Parce qu'il y a des fois où il refusait la sélection parce qu'il avait des matchs de Ligue 1 à jouer.
Non, mais il a eu sa canne, c'est bon.
Mais bon, il se dit peut-être, je sais pas.
Mais après, Montpellier, c'est bien d'avoir changé et d'avoir donné la confiance au coach pour commencer l'année prochaine. Papus Camara, il peut prendre ses marques sur les derniers matchs de Ligue 1, de toute façon, il n'y a plus rien à jouer, et préparer la saison en Ligue 2 avec les mecs qui ont envie d'être là, les jeunes. On sait qu'il a un gros réseau de jeunes, notamment au PSG, Camara, parce qu'il a été coach des jeunes du PSG. Donc s'il peut s'en faire prêter 2 ou 3 en Ligue 2, pourquoi pas, pour s'aguerrir, et repartir sur un nouveau cycle, parce que là, les anciens, ils sont complètement morts à Montpellier.
Ils sont claqués.
Autant la Ligue 1, c'est difficile, mais une fois que tu es descendu en Ligue 2, pour remonter...
La Ligue 2, c'est encore plus pénible.
À part si tu t'appelles Metz ou Lorient, parce qu'eux, ils y arrivent tout le temps. Lorient ou Metz, ils arrivent tout le temps à remonter, mais sinon, c'est très dur.
Après, c'est des équipes programmées, eux.
Des équipes en Valenciennes.
Ils descendent même, c'est rien. Ils savent qu'ils vont être champions l'année d'après, du coup, ils vont déjà fêter une remontée et un champion.
Metz, c'est les pros.
Voilà. Merci en tout cas pour... C'était tout pour la Ligue 1. Je tiens à rappeler le classement Paris Saint-Germain premier avec 74 points, Monaco deuxième avec 53 points, Marseille troisième avec 52 points, Lyon avec 51 points quatrième, Lille et Strasbourg avec 50 points cinquième et sixième respectivement, Nice septième avec 48 points avant que le reste se détache. En fin de tableau, on a Rennes avec 35 points, Toulouse 34, Nantes 30 avec une journée en moins, Angers 30 points aussi, Reims avec 29 points 15e, juste au-dessus de la zone de barrage, et zone barragiste, Le Havre avec 27 points, Saint-Étienne avec 24 points, et Montpellier avec 15 points, où les carottes sont presque bientôt cuites.
Ils sont cuites,
mais pas officiellement, c'est pour ça que je dis, en tout cas, d'un point de vue comptable, sait-on jamais en Ligue 1. Voilà, en tout cas, on va se faire une petite virgule avant de revenir, bien évidemment, avec la Ligue des Champions, mesdames et messieurs. La Ligue des Champions, bien évidemment, on continue. Arsenal qui ont infligé une correction 3-0 à l'Emirates Stadium face au Real Madrid. Ça laisse sans voix. Voilà. Le Paris Saint-Germain qui se sont imposés 3-1 face à Aston Villa avec 3 superbes buts. Hein. Je ne sais pas lequel est votre préféré. Hein. Le but de Kvaratskhelia, Désiré Doué aussi, hein, la barre entrante. Et Nuno Mendes avec un crochet où il envoie le défenseur et le gardien
Martinez
dans le vide avant de conclure agréablement. Barcelone qui se sont imposés assez aisément face à Dortmund 4-0. Bayern qui se sont fait surprendre à domicile 2-1 face à l'Inter Milan. L'Inter Milan qui réalise un joli coup hein, et qui s'impose déjà à l'Allianz Arena avant de les recevoir à San Siro pour un match où tout simplement il ne faudra pas perdre pour espérer passer en demi-finale et qui auront défié sûrement FC Barcelone qui ont pris une large avance au match aller. Quelles sont vos impressions sur ces matchs-là? Par quel match aussi voulez-vous commencer, Ibrahima?
Je vais commencer par le match du Paris Saint-Germain pour ma part. Grosse performance du Paris Saint-Germain, hein, même si en début de match, j'avais peur, j'avais quelques inquiétudes parce que j'avais l'impression qu'ils retournaient dans leur travers, d'en faire tourner la balle pendant 15 minutes autour de la surface. Et quand. J'ai oublié le nom de celui qui a marqué, c'est pas Watkins.
Rodgers.
Quand Rodgers a marqué, je me suis dit, peut-être qu'ils sont retombés un petit peu dans leur travers du début de saison.
Mais ça va parce que c'était pas en fin de match.
Oui, ça c'est
ils
sûr. Pas comme contre l'Atletico.
Donc
ils avaient le temps et après ils sont bien revenus. Et ouais, super but de Kvaratskhelia. But de Désiré Doué. Grand match aussi de sa part. Et ouais, franchement, grosse performance du Paris Saint-Germain. Et pour le match de demain, j'ai du mal à voir Aston Villa s'imposer avec 3 buts d'écart. Donc,
Roger, hein, ce
qu'il
disait.
Tu peux dire que on, On peut quasiment dire que le PSG a un bon pied en demi-finale, là, pour le coup. Le plus dur a été fait.
Rodgers et Unai Emery qui sont exprimés, d'ailleurs, là-dessus. Et Rodgers qui disait, le Paris Saint-Germain pensait qu'ils allaient s'imposer facilement, ils sont pas imposés facilement, on a fait un bon match. Ce que Rodgers a dit, on a fait un bon match et nous sommes une bonne équipe pour faire un retournement de situation. Du coup, on est prêt à Aston Villa à retourner la situation. Ce que Unai Emery aussi a dit, hein, je suis l'homme des remontadas, hein, que ça soit dans le bon ou dans le mauvais sens, notamment avec le Paris Saint-Germain. Je pense que on peut inverser la tendance au Villa Park au match retour.
Ils ne vont pas s'avouer vaincus non plus.
Ils
ne
peuvent pas dire l'inverse.
Bah oui, c'est sûr.
En interview d'avant-match, tu ne vas pas dire c'est mort, ils sont meilleurs que nous.
Mais bon. Ça, c'est sûr.
Non, mais tu peux aller avec moins de
prétention.
Voilà. Moins de prétention un peu, quand même.
Ouais, c'est sûr. Après,
surtout en disant qu'ils ont fait un bon match à l'aller. Moi, je ne trouve pas qu'ils ont fait un bon match.
Ils n'ont pas touché un ballon, en fait. Hein.
Ouais, mais c'est, ce que, ouais.
C'est ça, en fait.
Je ne vois pas où est-ce qu'ils ont fait un bon match.
Je ne sais pas ce qu'ils ont fait.
Ils ont passé leur temps à défendre et à essayer de contrer.
C'est ça, le Paris Saint-Germain met 3-1, mais le Paris Saint-Germain a pu mettre 4-5.
À un moment donné, il sort Cash, fait rentrer Disasi. Je crois que c'est la pire décision de la soirée.
Exactement.
Je ne sais pas.
Cash qui avait déjà un jaune, je pense, c'est pour ça.
Oui, c'est ça. Jaune un peu sévère, en plus.
Disasi latéral dans
les petits espaces. Ça n'est pas sévère pour lui.
Ça est blessé, danse. Me semble, c'est ça, non?
Ouais, c'est ça.
Ouais, ok.
Ça lui a fait une petite danse, d'ailleurs, on a pu voir.
Pourtant, en première ligue, il joue souvent arrière droit. Mais comme quoi, il n'y a pas assez d'ailiers qui lui font danser la Zumba. Hein.
Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ce match, Jason?
Franchement, ça a été un bon match. Moi, j'ai bien aimé le fait que Aston Villa ouvre le score, parce que ça a débridé complètement le match. Parce qu'ils étaient en bloc devant leur surface et Paris cherchait des solutions. Donc ça a rondé. Et tant qu'en fait, il n'y avait pas cet élément déclencheur, ça aurait pu durer longtemps comme ça. Ouais. Et dès qu'il y a eu le but d'Aston Villa, eh ben, on a vu un autre Paris. Le Paris avec le rouleau compresseur. Et de là, Aston Villa, ils ont commencé petit à petit à être étouffés. Et la
Les
magie...
frappes de loin, surtout, c'est ça qui a marché. Hein.
Mais la différence entre le Paris d'avant et d'aujourd'hui, c'est que maintenant, Paris peut marquer de loin. C'est que maintenant, il y a Vicina qui frappe, il y a Désiré Doué, il y a Xvara, il y a du monde. Donc, ça veut dire que même sur les blocs bas, ils ont plusieurs solutions. Et comme il y a beaucoup de joueurs imprévisibles, donc comme Désiré Doué, qui aurait imaginé qu'il aurait tenté à ce moment-là? Et ça fait un beau but, ça a relancé le match. Et de là, Aston Villa, on ne les a plus vus du tout. Après, concernant le match retour, Villa peut-être les accrocher ou peut-être gagner, mais je ne vois pas Paris ne pas marquer déjà là-bas, vu que Villa va laisser des espaces. Donc j'attends vraiment, mais je vois pas Villa non plus mettre 3 buts d'écart au Paris Saint-Germain.
Cheikh Kenza,
ouais.
Qu'est-ce que tu en as pensé du match du Paris Saint-Germain? Que du match du Paris Saint-Germain pour l'instant.
On est ouais, du PSG, match accompli, voilà, une équipe soudée, tout ça. Bon, on a vu des belles choses. Beaucoup aimé en fait l'attitude en fait des trois de devant en fait, voilà, avec Dembélé et tout ça. Ensuite, en fait, on a vu que en fait le monstre qui m'a beaucoup plu, c'est le milieu de terrain parisien, c'est-à-dire même quand ils encaissent le but et tout ça, on a senti que tous les joueurs étaient concernés, avec Hakimi en capitaine et tout ça, qui a bien géré le groupe et tout. Donc on a senti que même quand ils étaient dans le dur, les 15 premières minutes, comme il a dit tout à l'heure Brahima, c'était la passe à 10 et tout ça. Mais après, on a vu que vraiment qu'il y avait de la qualité dans cette équipe. Et c'est une équipe variée dans le sens où il y a des frappes de loin et tout ça. Il y a des joueurs de la percussion. Et c'est plus le même système. C'est pas en fait le PSG datant où il y avait une attaque fixe, une pointe et tout ça. Donc, c'est-à-dire que ce PSG est quasi injouable pour moi. Parce qu'en fait, le danger peut venir de tous les côtés, de nulle part. Et donc, en plus, le milieu de terrain qui peut faire la différence. On a vu un latéral qui marque. En fait, c'est une passe majestueuse d'Ousmane Dembélé qui casse la ligne et tout. Donc, on a vu que c'est un collectif. C'est ce qui manquait au PSG, le collectif qui prime au-dessus des individualités. Ça, c'est tout ce qui, en fait, caractérise les grandes équipes. Et je crois que Luis Enrique, on lui tire le chapeau, vraiment. Il a suivi les critiques. Voilà, il a su sortir l'épingle du jeu, comme on l'a dit, et vraiment bravo à cette équipe. Je compte sur eux, voilà, pour aller assurer à Villa Park, parce que c'est un peu ça les titille, voilà, mais ce groupe n'a pas peur. Parce que quand on voit le retour face à Liverpool, on a senti que c'est une équipe déjà qui est en confiance, et la confiance, vraiment, c'est la pièce maîtresse de tout, en fait, tout combat, en fait, tout ce qui est difficile. Donc, quand on est en confiance, on peut se la permettre. Je les vois vraiment même aller battre Aston Villa à Villa Park. Parce qu'ils ont les ressources, ils ont la qualité dans le jeu, ils ont des individualités, même si dans le collectif, ça va un peu peiner. Ousmane Dembélé peut te la sortir une. Il y a Désiré Doué, il y a Kava. Il y a aussi Barcola qui peut sortir du banc et te sortir des prestations vraiment XL. Donc, moi, j'y crois.
Après, PSG, attention, je ne sais pas s'ils ont déjà perdu à Villa Park en Première Ligue. Donc, juste attention juste sur la défaite, mais après...
Non, je sais que vraiment, en fait, cette équipe d'Aston Villa, elle est bien en place. Mais ce PSG qu'on voit vraiment, elle est titulée vraiment Liverpool. Voilà, elle a créé des difficultés même à Liverpool. En fait, on sait tous...
Ouais, ils ont imposé à Anfield.
Voilà, on sait tous qu'Anfield est plus compliqué que Villa Park en termes d'ambiance et tout ça, en fait. Et Liverpool, quand tu vois des gars comme ça, là, en fait, qui te sautent des saisons stratosphériques, c'est pas mal d'années avec la régularité qu'ils ont. Quand tu vois qu'à Liverpool, en face, t'as Virgil van Dijk, t'as pas les mêmes défenseurs que tout ça, t'as Ibu Konaté, en fait. T'as des gens qui sont en place, t'es un collectif, t'as des gens qui ont l'habitude de gagner, qui savent gérer les grands matchs et tu vois cette équipe vraiment voilà, qui la gère en fait, qui maîtrise son sujet de bout en bout. Donc ça montre que vraiment qu'il y a un travail qui a été abattu et on ne peut qu'être satisfait des résultats. Et les résultats sont là, c'est des choses qui sont factuelles. Voilà, on est tous éblouis, surtout commencé par moi, parce que voilà, je ne croyais pas vraiment ce PSG vraiment mettre Liverpool hors de portée comme ils l'ont fait et là avec Villa. Donc ça montre que le championnat de France a aussi des qualités.
Merci, Cheikh Kenza. Maxence, vas-y.
Ouais, pour moi, l'enseignement sur ce match du PSG en Ligue des Champions, il n'est pas technique, tactique, parce qu'on savait en allumant la télé que Paris était au-dessus footballistiquement de cette équipe d'Aston Villa. Mais c'est surtout le côté mental, parce qu'il y a tout pour que ce match il soit bourbier. Tu tombes contre une équipe qui met le bus et qui met en plus le premier but en braquant totalement la première mi-temps. Donc il y a tout pour douter, et quand on connaît le passif du PSG en Ligue des Champions à ces niveaux de compétition, on peut se dire que c'est le moment où ils commencent à se dire « Merde, c'est encore pas pour nous cette année, on est en train de se faire avoir par une équipe, il y a un gardien qui peut prendre feu parce qu'on a des mauvais souvenirs contre lui, machin. » Et malgré ça, il n'y en a aucun qui a arrêté de jouer, ils ont continué exactement selon leur plan, ça veut dire qu'ils croient beaucoup en ce qu'ils sont en train de faire, il n'y en a pas un qui doute. Et c'est ça qui permet à Doué de tenter cette frappe-là. C'est que si le mec il est en train de douter, il tente pas cette frappe en déséquilibre à 20 mètres. C'est qu'il est il est sûr de ce qu'il fait. Ils sont tous concernés et certains que c'est la bonne méthode qu'ils sont en train d'appliquer. Donc moi surtout ça c'est le côté mental. Et pour demain je m'inquiète pas du tout. Rien n'est impossible dans le football. Hein. Mais pour moi il y a 1% de chance peut-être que Villa passe. Mais je vois pas Paris perdre de par 3 buts d'écart. Il y a tellement de différence entre les deux équipes. Pour moi, si le match, à part s'il rentre dans une sphère complètement dingue avec un rouge de Donnarumma à la 5e et une panique à bord générale, sinon, j'y crois pas.
Une bourde aussi, parce que Donnarumma, par moment...
Je pense que même s'il fait une bourde, t'as quand même ton but d'avance encore, parce que t'en as deux, et t'as deux joueurs sur le terrain qui vont marquer. Paris restera pas muet 90 minutes.
Oui, je sais, mais au football, ce qui est fatal, en fait, c'est-à-dire redonner confiance à l'adversaire. Ce qui est fatal, c'est redonner confiance à l'adversaire dans un match où tu l'as vraiment à ta portée. Il ne faudrait pas vraiment une erreur. On a vu le match contre le Real Madrid. C'est Donnarumma qui relance les sujets, en fait, après son erreur et tout. Oui. Le Real revient, en fait, en confiance et tout ça.
Mais après, il y avait de la qualité en face pour profiter de cette erreur-là qu'il n'y a pas à côté Aston Villa,
ouais,
je pense.
En tout cas, moi je ne doute pas. Mais il faudra aussi, comme on dit, un homme averti en vaut deux. Donc, du coup, voilà, il faudra que les Parisiens vraiment qu'ils soient sérieux, concentrés, comme ils l'ont été. Comme ils ont été le match aller, parce qu'en fait, ce genre de compétition, ça se joue sur deux matchs, aller et tout. Donc là, on n'a que joué qu'une mi-temps. La deuxième mi-temps serait en fait, ça serait de nous régaler, de montrer vraiment en fait une domination. Voilà, d'envoyer pourquoi pas un message aussi à l'Europe pour dire que Paris, vraiment, c'est une équipe sur qui on peut compter. C'est une équipe qui a des qualités et cette saison, pourquoi pas aller titiller les grands. Ça serait bien en fait. Ça serait un message fort, en fait.
Après, il faut se dire qu'il y a très peu de joueurs qui ont été touchés par les fantômes du passé du Paris Saint-Germain. Donc, c'est ce qui reflète aussi l'énergie qu'il y a cette équipe. C'est qu'il y a très peu de joueurs qui ont été touchés et qui ont faim de gagner. Ils ont faim de gagner ensemble.
Merci, Jason. On va conclure. Bah, Maxence, est-ce que tu peux nous parler... Bon, je pense que le Barça, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Tout le monde est d'accord sur le fait que le Barça se sont imposés assez logiquement. Une équipe un peu décevante du côté de Dortmund. Mais...
J'attendais pas grand-chose de leur part. Ça.
Voilà. Je pense que voilà. Ça...
Ils ont pris vu le match la saison. Aller.
Ouais, c'est ça, au vu de leur saison.
Ouais. On va parler un peu de Bayern-Inter.
Oui, ça c'est le match avec le plus de suspense, je crois, parce que oui, oui parce que c'est un match vraiment où on a vu vraiment un Bayern aussi qui a été très bon, surtout avec Olysée et tout ça. On a vu Harry Kane.
Un gros raté d'Harry Kane.
Ouais, oui, surtout Harry Kane, vraiment, voilà, je ne sais pas, c'est la malchance. Peut-être
il a du mal dans ce match-là,
voilà,
Harry Kane.
On va dû le mettre en prière, peut-être, voilà, je ne sais pas. Ou on va lui conseiller une période de jeûne, parce qu'il en faudra pour qu'il puisse regagner, parce qu'il est tellement rempli de poids, ce type. Que par moment ça joue en sa défaveur, sinon on a vu un Bayern costaud. Après l'Inter aussi, c'est Simone Inzaghi, ben là, c'est comme ça, c'est la culture italienne et tout ça, avec des flèches et tout. Et on a vu un Marcus Thuram, mais sur le premier but, en fait, sa déviation, ça prouve vraiment qu'il y a de la qualité.
Est-ce qu'il a fait exprès sur cette déviation?
Bah oui. Moi je pense que oui.
Bah oui. Oui. Bien sûr que c'est fait exprès.
La surface de pied, l'orientation du corps, c'est fait exprès.
En fait, c'est un geste technique qui est préparé parce qu'en fait, c'est pas comme s'il le voit. En fait, il sait que s'il met le ballon là, à un moment donné, il y a la tarot qui va venir. En fait,
mais j'étais surpris que ça vienne de lui aussi. Voilà. J'étais surpris.
C'est des séquences.
Si je vois,
je pose la question parce que
c'est volontaire.
Moi, quand je l'ai vu, je me suis dit. Parce qu'à l'endroit où il était, il aurait pu tirer
ouais,
aussi.
Oui, parce que c'est Thuram, tu te dis.
Voilà. Non,
tu te dis parce que c'est Thuram. Si c'est Benzema, tu te dis c'est volontaire.
Non, c'est pas forcément ça. C'est parce qu'il aurait pu tirer aussi. Il était dans une position où il aurait pu tirer.
Mais après, de son coup d'œil, il a vu que Lautaro est en retrait.
Et comme je ne l'ai pas vu faire ce coup d'œil-là, justement, carrément, j'avais un débat et j'ai re-regardé le ralenti avec cet ami où il me dit « Ah non, finalement, lui-même, il pensait que c'était exprès. » Et il me dit « Ah, finalement, ce n'est pas si exprès que ça. »
Après, je pense que beaucoup
qu'il veut faire quoi du coup
Thuram.
Comment ?
Il veut faire quoi du coup?
Moi, je pense qu'il veut contrôler ou tirer, mais il se loupe un peu.
C'est voulu. C'est voulu.
C'est des trucs qui sont préparés à l'entraînement parce qu'en fait, déjà, les deux jouent ensemble. Et il y a des séquences comme ça où en fait on se dit que voilà, il y a un qui va prendre l'avance et tout ça, la mettre en retrait et il lui donne, en fait c'est comme un caviar ce qu'il lui donne.
C'est la finition de Taro qui est magnifique aussi.
Ah oui,
l'extérieur
en fait,
est dingue.
L'extérieur est magnifique.
Et ça rend le but complètement fou.
L'extérieur, mais en fait la passe, la qualité de la passe, déjà, parce qu'il le met dans les meilleures conditions.
Et il stoppe la balle,
c'est un pénalty.
Voilà, et donc il n'a juste qu'à peut-être à la brosser. Voilà.
Modric.
Après, c'est un beau but.
Mais la différence qu'il y a entre le Marcus Thuram de l'Inter Milan et de l'équipe de France, par contre, va falloir se pencher sur le sujet.
Parce que après, il n'est pas utilisé. Voilà,
c'est sûr. Voilà, il joue à deux devant avec un mec avec qui il est hyper complémentaire.
Ça peut pas être autant jour et la nuit. Quoi.
Après, c'est ce qu'il faut à son image. C'est ce qu'il faut à son image. C'est que la plupart des gens le connaissent par l'équipe de France. Donc tout le monde se dit « Ah, Marcus Thuram, il n'est pas bon. Bon » Parce qu'en équipe de France, il n'est pas bon.
Et en équipe de France, jouer avec Mbappé à côté, etc.,
exactement,
c'est pas facile.
C'est pas le même
c'est
football.
C'est le rôle ingrat. Tu dois aller faire le pressing, c'est ce que Giroud faisait. Hein.
C'est pas le même football.
C'est pas le,
et surtout,
le bon
c'est
foot,
pas la même tactique.
Ouais,
c'est
sûr.
Qu'à l'Inter, il est libre.
Ouais, il est libre de tout mouvement.
Et techniquement, si tu le vois, il s'exprime.
Les ballons passent par lui.
Exactement, c'est pas le même rôle.
Et il touche plus de ballons, en fait. Parce que ça aussi, ça compte aussi pour un joueur. Parce qu'à un moment donné, plus tu touches le ballon, plus tu
réussis des choses.
Voilà, et tout ça.
Bien sûr.
Et à la base, c'est quelqu'un qui est formé pour être ailier, en fait, depuis l'INFP et tout ça. Donc, mais moi, je crois que c'est pas le problème Mbappé. Peut-être ça lui aussi, en fait, de travailler un peu son positionnement.
Le sélectionneur, moi, je pense surtout.
Oui, exactement.
Mais je crois que ça lui aussi de travailler aussi son positionnement.
Il ne connaît pas la formule
qu'il faut adopter. Neuf seul, c'est pas un neuf, il est pas fait pour jouer
non,
neuf tout seul.
Si, il est ailier en fait. À la base, Marcus Thuram, c'est un ailier.
Mais donc, tu peux pas le mettre en neuf tout seul. Et c'est là que c'est l'heure de Deschamps.
Là,
quand il met en neuf tout seul, il peut pas.
Mais là, maintenant, son repositionnement, c'est à lui de travailler ça. Parce qu'on a vu des gens qui étaient ailiers à la base. Quand tu deviens neuf, c'est des choses qui se travaillent et tout ça. Tu peux pas en conseiller auprès des grands.
Ouais, pour moi,
ce
sera jamais un grand neuf.
Ah non, ce
sera jamais Lewandowski ou Harry Kane.
Exactement.
Il a besoin d'un autre gars. Il a besoin de
quelqu'un qui est bon dans l'association, dans la complémentarité. Ce sera pas, par exemple, comme tu mets un Luis Suarez ou un Pistolero.
Je pense avec un Griezmann, il aurait été parfait, par exemple, tu vois.
Ouais, une association.
Dans cette association, mais Griezmann, il y a 5 ans, hein, mais dans l'idée.
Même là, en équipe de France, ça dépend peut-être, oui, peut-être soit. Peut-être
après, le problème en équipe de France, c'est que.
C'est pas le
dispositif
deux points, déjà.
Exactement.
Voilà.
Non, deux points en équipe de France, c'est un peu compliqué. Peut-être avec
c'est
le nouveau rôle de Mbappé, ça serait possible si, en fait, si un essaie de se sacrifier pour l'autre. Ça, c'est Marcus.
Bah, surtout que maintenant, Deschamps, il veut les faire jouer comme le PSG. Donc
ça j'y crois pas longtemps ça.
C'est ce qu'il essaie de faire.
C'est ce qu'il essaie.
Bon, on verra contre l'Espagne, mais j'y crois pas trop. Ce sera plus contre Reims, je pense.
Bon, en tout cas, le match a été plaisant dans l'ensemble. Ça a été très plaisant. Et le retour aussi, ça promet parce qu'en fait, l'Inter, ils ont fait le résultat vraiment à l'Allianz Arena, à San Siro. Ça. Simone Inzaghi, c'est un tacticien. Il sait déjà aborder les matchs et tout. Il a déjà préparé son plan. Mais peut-être ça peut se jouer sur des détails. Comme à l'aller, mais je vois qu'on aura un match avec beaucoup de suspense.
Ouais, de toute façon, c'est le match avec le plus de suspense. Mais le problème, c'est que moi, ce match-là, ça m'a fait penser à le Bayern comme si c'était un match de championnat. ils ont besoin de plusieurs occasions pour mettre un but. Et j'ai l'impression, c'est comme quand ils jouent contre Mayence ou des équipes comme ça, et l'équipe adverse, tout de suite, elle est punie.
Alors qu'en face, l'Inter, c'est pour le coup, c'est chirurgical.
Ah, chirurgical.
Et pour moi, s'il y a une équipe qui peut sortir le Barça, ça, compte, ça, tombe, ça tombe bien, c'est l'Inter. C'est typiquement les jeux antinomiques.
Exactement.
Ils vont se taper. Et ça se trouve, ça va être le Barça qui va passer. Mmh. Et l'offensive va prendre le pas sur la ligne de défense,
mais
etc.
Ils défendent tellement bien, en fait.
Ils défendent tellement bien.
Que déjà, tu sais qu'offensivement, ça va pas être facile d'attaquer une équipe comme
mais
ça.
Mais pour moi, s'il y a un poison contre le Barça, c'est l'Inter.
Ah, oui.
Et la double confrontation va être incroyable si ça se dessine comme ça, et si l'Inter passe, ça peut être complètement fou.
Et en plus, c'est une équipe qui réussit chaque fois aux interistes, donc je me dis que le Barça vraiment jouer l'Inter, ça serait pas, même si tu demandes à siffler, qu'il ne tirera pas, que ça sera le chat favorable pour lui. Parce que
cette
équipe d'Inter, elle est pratiquement jouable, en fait, parce que déjà, ils vont déjouer les plans, et offensivement, c'est des contre-attaques. Surtout que quand le Barça, ils auront la possession, ils sont obligés de s'exposer. Avec la ligne de jeu, pourtant Simone Inzaghi, c'est quelqu'un qui est minutieux dans son travail, voilà, qui prête attention aux moindres détails, comme on connaît les Italiens.
Et ce match, il fait envie, en tout cas, ouais.
C'est ça.
Ouais.
Donc, il va jouer plus sur les faiblesses de Barcelone que ses atouts, en fait, à lui. Donc, c'est quelqu'un qui sait comment contrer l'adversaire. En tout cas, ça promet.
Déjà faire le retour entre le Bayern et l'Inter.
Ça, parce que autant Barça, ils sont presque, voilà. Autant l'Inter, attention.
Ouais,
ça,
autant l'Inter, ça promet.
Quels sont vos favoris pour ce match?
L'Inter.
Ouais, je vois l'Inter.
Moi,
je vois un nul.
Ouais, pareil, je vois la qualif de l'Inter. Ouais. Parce
moi, en tout cas, j'aimerais voir l'Inter. Parce que j'aimerais voir l'Inter pour ce qu'ils vont proposer pour
le
la
Bayern
suite.
Le Bayern ne m'a pas rassuré ce week-end.
Voilà, parce que le Bayern, c'est moins.
C'est mine de rien, ils ont des absents. Upamecano sera encore pas là. Moussiala est encore blessé, moitié. Donc,
c'est compliqué.
En plus, avec l'inefficacité qu'il y a et tout ça, donc ça prouve que la carotte sera un peu plus.
En plus, il joue avec Urbig.
Et après l'Inter aussi. Je veux voir l'Inter vraiment aller au bout de ces quarts de finale.
Ok, merci Chakenza. On va commencer par toi justement pour te limiter, parce qu'après il faudra qu'on passe rapidement aux autres et pour qu'on enchaîne après sur les autres sujets. Qu'est-ce que tu en as pensé de la débâcle du Real Madrid face à Arsenal?
Bon, cette débâcle vraiment, c'est mérité. Hein, la victoire d'Arsenal est méritée. Vu le contenu que le Real a proposé, il n'y a pas photo. Ils ont été meilleurs que le Real Madrid dans les compartiments du jeu et tout ça. Et on a vu vraiment que le milieu du Real était vraiment asphyxié de part et d'autre. Vu vraiment la proposition d'équipe d'Ancelotti qui a un peu fait encore une énième erreur encore. Parce que vu vraiment le milieu d'Arsenal, tu as Thomas Partey, tu as Declan Rice, tu as Odegaard. C'est-à-dire que tu as deux milieux qui sont genre un peu box-to-box, qui sont un peu qui peuvent aller au duel, et tu as un fin technicien. Et toi, tu associes trois techniciens. Kamavinga, c'est plus dans la projection. Modric non plus. Donc Bellingham, c'est pratiquement un 10. Donc il n'y a pas eu de résistance. Et tout s'est joué de là, en fait. Arsenal a dominé son sujet, ils ont dominé le Real de Madrid et ils ont été meilleurs. Après, bon, on peut croire, parce que le Real Madrid, ce sont les rois de la remontada, les rois de la Ligue des Champions. Au retour, ce que ça promet déjà, une ambiance vraiment tonitruante et tout ça. Ça promet même de fermer le Bernabéu, de mettre, il y a le retour de Ceballos et tout ça. Donc, je crois que ça promet, mais pour l'instant, je reste un peu, voilà, faut pas trop parler. Mais je crois que le Real va se qualifier, même si c'est au bout du suspense, moi je crois.
Merci, Chakenza. Non, c'est son avis, c'est pour ça que
je suis confiant.
Par
parce que je suis confiant.
Non, Chakenza, merci.
C'est bon. Je suis confiant.
On s'arrête là. Merci, Chakenza. Ibrahima.
Bah, pour revenir sur le match, comme Chakenza l'a dit, je pense que Arsenal a été supérieur. Surtout quand tu as un joueur comme Declan Rice, je crois que je l'ai jamais vu mettre un coup franc.
Mais il était chirurgical.
Les deux premiers coups francs de
sa carrière. Les deux premiers, deux grosses frappes comme ça, c'est. Ouais, c'est inarrêtable, hein, même si Courtois, son mur aurait pu être un peu mieux placé, je pense.
Son premier but,
ouais, surtout sur le premier.
Ouais. Mais apparemment, il les place toujours de la même manière.
Ah non, bah, moi, il me semblait, en fait, pas. Il le place comme ça, celui-ci, il l'a plus placé comme ça, parce que pour lui, il était persuadé que c'est Saka qui prenait.
C'est ça, Saka,
c'est un gaucher. Entraîneur de gardien.
Il me semble qu'à la dernière seconde, ils ont changé, en fait. Il me semble qu'il change à la dernière seconde, de Rice dit à Saka qu'il la sent bien, et il laisse tirer Rice, en fait.
Ouais, ouais,
c'est ça qui s'est passé.
Oui, c'est ce qui s'est passé.
Ouais,
et c'est surtout le coach, le coach des coups de pied arrêtés qui est venu et qui a fait comme ça. Et il leur faisait, prenez-la comme ça. Et comme ça, Saka ne peut pas la prendre, il est gaucher. Du coup, dans forcément. Ce sens-là, forcément, c'était forcément Rice. Mais même les commentateurs, ils disent Saka qui va tirer le truc, malgré qu'il monte la tête à Rice. Hein,
Mur ou pas, pas, faut faire une frappe exceptionnelle. Et la frappe,
c'est incroyable. Elle a été flashée à 97 km/h.
En tournant, etc.
Surtout l'entraîneur justement de gardien, donc Thibaut Courtois lui-même, qui a dit que son mur, il le plaçait toujours de la même manière. Parce qu'il faut être chirurgical exactement pour mettre le but de Camille Rice. Et comme lui, il a une longue allonge, donc il a un temps d'avance que les autres gardiens n'ont pas, qu'habituellement, il peut attraper, que là, Rice, elle était placée millimétrée.
Ah, mais on retire absolument rien à Rice. Hein. C'est incroyable ce qu'il a fait. En plus, sur coup comme
mérite,
ça,
en fait.
Il a vraiment du mérite. Après, maintenant, pour revenir sur le match retour, bah, bizarrement, moi, je ne vois pas le Real se qualifier parce que depuis le début de saison, honnêtement, je ne les trouve pas... Ils ne sont pas exceptionnels. Hein. C'est très, très, très poussif hein, quand même. Hein. Très poussif, toutes les victoires, que ce soit en championnat ou même en Ligue des Champions. Enfin, je sais pas, le Real n'a pas été fichu de finir dans le top 8, par exemple. Ils affrontent un City très malade, ils réussissent à se qualifier, mais sur toute la saison, moi, je trouve que c'est très poussif. Hein. Il y a quelque chose que je ressentais la saison passée que je ressens un peu moins cette année. Je ne saurais pas comment l'expliquer, peut-être une certaine hargne, je ne sais pas.
Surtout une fragilité.
Oui, il y a une grosse fragilité, et surtout défensivement, sans compter les blessés, parce que tu te passes de joueurs quand même comme Carvajal. À là-bas, il revient, mais c'est compliqué.
Le truc, c'est qu'ils vont peut-être mettre des buts, mais ils vont peut-être en prendre aussi.
C'est ça le souci. Et quand on a déjà pris 3 à l'aller, je sais pas quoi. Mais... même si t'en mets 5, tu en prends 2 ou 3, je pense. Ouais, hein,
même
ça.
L'année dernière, le Real, c'était poussif en fait. Quand tu regardes les deux dernières Ligues des Champions qu'il gagne, ça a toujours été poussif. Il y a toujours des blessés.
Je suis
en fait.
D'accord avec toi, mais
t'as jamais pris un tel éclat par contre.
Non, en fait,
t'as jamais pris un 3-0 aller.
Si je peux terminer.
Oui, vas-y.
T'as raison, je suis d'accord avec toi. Ça a toujours été un peu poussif du côté du Real Madrid. Mais cette année, je sens que collectivement, il y a une certaine fragilité quand même. Je sens exactement. Pas une réelle cohésion.
Ibrahima, s'il te plaît, dans le micro.
Excusez-moi, je sens pas une réelle cohésion parmi les joueurs du Real Madrid cette année. Je la ressens un peu moins que la saison passée, par exemple. Je sens, je sais pas, on voit Bellingham s'agacer beaucoup. Bon, Vinicius, quoi. Même, je sais pas, Mbappé, il souffre beaucoup. Enfin, je sens une certaine fragilité au niveau du collectif et je pense pas que... Ouais, je sais pas, on les voit sur les réseaux sociaux, quoi. Soit ils font un peu les mecs mystérieux, oui, on va le faire, etc. Mais personnellement, je les vois pas se qualifier face à Arsenal.
Moi, en fait, si j'ai une phrase à dire, moi, je sais que cette équipe est capable de ça. Parce que pourquoi ? Parce que à chaque fois que le Real a été comme ça, ils ont été poussifs. Les deux dernières Ligues des Champions, c'est pareil, c'est copie conforme. Quand tu me dis que oui, ils n'ont jamais pris un 3-0, mais le 2-0 à Wolfsburg, quand tu le prends en 2016, mais au retour. Mais...
On parle d'un truc il y a 10 ans. Hein.
Non, il y avait surtout The Special. Voilà, il y avait surtout The Special Champions.
Pareil,
hein.
Ouais, il y avait The Special Champions, mais là,
à l'époque de Di Stefano, ils faisaient des remontada aussi, mais c'était il y a 50 ans. Donc,
Mais là, ils nous ont tellement habitués à ça. Et en fait, le truc, c'est quoi ? C'est que déjà, il y a une spicose qui se prépare. C'est-à-dire, au sein du vestiaire, ils y croient. Et quand ils y croient, à Madrid, c'est magique.
Ça, c'est ce qu'ils vendent.
Non, c'est pas ce qu'ils vendent. Les nuits à Madrid sont magiques. Oui. Quand tu regardes l'année où sort City, pas le 4-3, mais personne n'y croyait que City allait partir. City,
c'est
magique. Les nuits à Madrid sont magiques. Que tu le veuilles ou pas, c'est des nuits en fait où tu ne les vivras pas deux fois dans l'année. C'est des moments ultimes où tu es là. En fait, tu as comme l'impression que cette équipe, à un moment donné, elle se transcende
ça,
dans les 10
dernières
minutes.
C'est les seuls arguments que vous donnez depuis septembre quand on parle du Real.
En fait,
je te promets.
C'est pas les seuls arguments.
Quand on parle
du
Real, depuis septembre, on essaye de dire le Real, c'est compliqué dans le jeu. Le Real, attention, quand ils ont eu des gros adversaires en face, ils ont pris tarif. Et les seules réponses qu'on a, c'est... Les seules réponses qu'on a, c'est attention, on verra en avril, le printemps, Mbappé qui dit « Oh, maintenant, c'est l'heure que je décide des matchs. Oh non, mais vous allez voir. » Ben là, on voit, quart de finale Ligue des Champions, c'est le moment, là. Là, c'est maintenant qu'il faut y être. Ben, on voit ce que ça donne.
Ça a toujours été comme ça.
Non, ça n'a pas toujours été comme
ça. Le Real d'Ancelotti
a toujours été en position de faire saison blanche le 15 avril. Parce que là, c'est saison blanche qui se profile.
Mais le Real d'Ancelotti, ça a toujours été comme ça.
C'était pas aussi faible. C'était pas aussi faible individuellement.
Comme ça, ça a toujours été comme ça.
Mais c'était pas aussi faible collectivement.
Ils prenaient pas autant de buts surtout.
C'était pas aussi faible. Là, ils se font rouler dessus. Ils ne proposent rien. En deux classicos contre le Barça, t'en prends 8. C'était tous les ans comme ça. Ben non, collectivement, tu n'as rien à proposer. T'as les quatre devant, c'est à celui qui en fera le moins. Non, Bellingham, je suis un peu dur. Mais Vinicius, Mbappé, ils se regardent.
Rodrigo, il bosse encore.
Toi, tu vas courir. Moi, je cours pas. Toi, tu cours pas. Ben vas-y, on court pas tous les deux. Et donc, du coup, c'est comme ça. Au milieu, ils sont complètement délaissés. Ça part dans tous les sens. Derrière, c'est faible parce que t'as perdu quelques individualités. Et il n'y a plus aucun esprit collectif de révolte dans cette équipe. L'année dernière, tu tenais parce que t'avais un cadre collectif avec une individualité ou deux, Vinicius, Bellingham, qui était au-dessus et qui portait l'équipe. C'était assumé par tous. tous. On court parce que Vini va faire la différence de l'autre côté. Là maintenant, plus personne ne court parce qu'ils sont tous en mode oh vas-y, les 6 de derrière, ils vont faire le taf et nous
mais
devant.
Mais le truc, c'est qu'ils veulent tous être les sauveurs.
Nous devant, on se la régale. Vinicius, il courait 10 km de moyenne l'année dernière sur les matchs de Ligue des Champions. Cette année, il est à 8,5. Pourquoi il a perdu 1,5 km? Parce qu'il regarde Mbappé. Mbappé, il en fait 8. Il se dit, mais moi, je vais pas courir, aller récupérer les ballons. Le si à côté, le mec qui a pas gagné avec des champions, il est là et il nous regarde faire. Et c'est normal. Mais le problème, c'est que depuis qu'on donne les signaux, depuis septembre, le match contre le Milan, le match contre Dortmund, qui était catastrophique pendant une heure, et tu t'en sors à la fin en mettant 4 buts très rapprochés, 5 buts très rapprochés.
Le pire, c'est celui contre Liverpool. Excuse-moi, t'es
contre Liverpool. T'as raison. Le pire. Les classicos contre le Barça, qui sont horrible. À chaque fois des rodéos.
Ça fait beaucoup cette année, franchement.
Et dès qu'on on mettait ce truc-là, on avait comme argument en face, ah ouais, mais contre Alaves, Mbappé, il a mis un doublé. Et puis, oh là là, attention, contre Celta Vigo, Vini, il a montré qu'il était bon. Mais c'est pas ça qu'on demande. On sait qu'en Liga, ils vont gagner des matchs individuellement parce qu'ils ont de la qualité plus que d'autres. On sait que contre City, qui a plus d'équipe cette année, qui a plus de défense, ça va faire la diff. Mais il y a un moment dans la compétition où tu dois avoir plus que ça. Tu dois avoir plus qu'un exploit individuel de temps en temps. Tu dois avoir une force collective, une force globale. Et les exploits dont tu parles d'Ancelotti, c'était avec des collectifs qui étaient très forts. Un milieu qui était quand même tout le temps très fort, qui te permettait de voyager, une défense qui tenait la route, et des mecs devant qui faisaient la diff, mais en s'intégrant au collectif. Ou alors, t'en avais un qui sortait, c'était Cristiano, parce que c'était Cristiano. Et Cristiano, t'en as pas 15, sinon ça se saurait. Et là, cette année, tu joues avec deux starlettes devant qui pensent que l'équipe tourne autour d'eux, alors que l'équipe, elle tourne autour d'un des deux, mais pas autour des deux. Et au milieu, des mecs qui sont saoulés, en fait, ça se sent. Et tu sens une tension dans cette équipe-là qui ne présage rien de bon pour moi. Le geste de Mbappé hier, les comportements de Vinicius, comme tu l'as dit, de Bellingham.
Même Bellingham, souvent.
Tu vois des mecs.
Bellingham, là, il y a une embrouille.
Il y a une
embrouille avec Rudiger.
Il y a tout le temps des galères. Ils sont tout le temps excités. Ils sont tout le temps sur les nerfs. Et tu sens ce qu'on disait sur le PSG, la sérénité, le truc qui tourne contre. On reste focus sur nos plans de jeu, etc. Tu sens que le Real, dès qu'il y a un petit grain de sable, ça part en n'importe quoi.
Ça part en cacahuète.
Après, malgré tout, je dirais que le Real reste le Real, même si je n'y crois pas. Mais ce n'est pas impossible qu'il se passe quelque chose demain. C'est quand? C'est demain ou c'est mercredi?
C'est mercredi.
C'est mercredi. Que mercredi, il se passe quelque chose, que nous-mêmes, on soit choqués, parce que de toute façon, le football ne fait que nous surprendre à chaque fois, surtout dans cette compétition. Mais
je me dois de le dire, excuse-moi de te couper, mais je me dois de le dire, hein, Philippe a annoncé 3-0 pour le Real, tir au but.
Moi, je dis que tout est possible. Mais j'y crois
et
pas.
Philippe, et je sais que Philippe a donné souvent de pronos où tout le monde le contredisait autour de la table. On le contredisait tous. Et ça
au
se
final,
passait
ça
comme
réalisé,
comment
oui.
Il le disait. Parce que moi, toi, t'es très content que ça se passe comme ça.
Non,
parce que
ben, après,
ça.
En fait.
Mais on est très loin chez Kenza. On est très loin de ça.
Mais après,
tout dépend d'Arsenal. Tout dépend d'Arsenal. Si Arsenal, comme on dit, en gros, sans être vulgaire, mais s'écrabouille pas.
Ouais.
Au Bernabeu, en principe, tout devrait bien se passer pour eux. Mais
c'est
si...
comme la remontada PSG-Barça. Tout dépend du PSG
tout
et le PSG
de
a
de
pas fait ça. Là, tout dépend d'Arsenal. Mais après, je veux pas qu'on fasse croire que c'est tous les ans que le Real remonte 3 buts à l'aller, au retour en championnat, en Ligue des Champions, parce que Madrid, le Bernabeu, machin. Ça n'existe pas. C'est pas tous les ans que tu remontes 3 buts. Ouais. C'est arrivé une fois où t'as remonté 2 buts face à Wolfsburg il y a 10 ans. Et sinon, depuis, certes, il y a eu des scénarios où tu mets 2 buts à la fin.
Ou face à Naples,
Atlético.
Oui, bien sûr, c'est pas tous les ans que tu remontes un 3-0. Ah ça n'arrive quasiment jamais, cette histoire.
Non, donc... mais avec le Real Madrid, le jamais n'a jamais existé, en fait.
Oui,
avec
le Real Madrid.
Le Real Madrid, quand on l'a toujours dit l'exception, eux, ils faillissent. Parce que quand on dit l'exception, il y a toujours un sauf.
Merci, Cheikh Nza. Excuse-moi, mais je suis obligé de couper là. Il est déjà 21h34, hein, si vous nous suivez. Hein. Le débat prend de l'ampleur, hein, bien évidemment. Mais on y reviendra la semaine prochaine. Hein. On vous laisse vous faire vos avis, en tout cas, sur la question. On a pu avoir l'avis de nos chroniqueurs. On va se faire une petite pub avant de revenir avec la Ligue Europa, hein, Lyon, face à Manchester United. Et Bodo Glimt, surtout, hein, une équipe dont j'en ai parlé la semaine dernière et on m'a contredit. On y revient juste après.
Retrouvez Au bout du foot avec El Hadji Makalou. L'émission où on parle de foot comme entre potes. Chaque lundi en direct de 20h30 à 22h sur Mon Paris FM pour des débats passionnés, des analyses sans filtre et des moments de franche rigolade. Ici, le foot se vit et se discute avec authenticité. Rejoignez-nous pour vibrer, discuter et partager autour du ballon rond.
21h35 de retour dans les locaux de Mon Paris FM pour l'émission Au bout du foot. On va commencer avec la Ligue Europa. La Ligue Europa, Lyon, qui ont fait match nul face à Manchester United, hein, 2-2. Qu'est-ce que vous pensez de ce match-là? Il y a Bodoglim qui se sont imposés face à la Lazio Rome. Hein. Je me dois de le souligner parce que c'est une équipe qu'on ne connaît pas trop, mais qu'on a vu finalement faire la surprise, enfin plus ou moins en tout cas, à domicile s'imposer 2-0. C'est quand même un score assez conséquent pour aller à la Lazio. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Et aussi, on a pu avoir d'autres matchs. C'était
Bilbao, il me
semble. Bilbao face aux Rangers, total, qui n'ont pas réussi à battre Rangers, malgré que Rangers était réduit depuis la 13e minute, il me semble, avec un carton rouge et avec un penalty loupé aussi du côté de l'Atlético Bilbao. Bon, ils auront quand même le match retour à domicile, mais il faudra faire le taf pour espérer quelque chose.
La finale est chez eux en plus. Ouais. La finale sera à San Mamés. Ouais. Donc c'est leur objectif de la saison.
Voilà, en tout cas, j'espère pour eux. Que ça va le faire, en tout cas j'espère pour eux déjà qu'ils vont nous donner du bon football. Et Tottenham-Francfort 1-1 avec un but de Hugo Etiquité, encore franchement, quelle régalade, hein, qui a marqué encore ce week-end en championnat. Hugo qui retrouve très bonnes couleurs,
hein, hein.
Il retrouve la couleur en fait.
Voilà, c'est très très fort. Du coup, vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé très rapidement pour qu'on enchaîne avec le reste, Ibrahima.
Je vais commencer par le match de Lyon du coup. Lyon a fait un plutôt bon match. Ça aurait été dommage de perdre, donc le résultat est plutôt logique. L'égalisation de Cherki dans le temps additionnel, c'est mérité. Le résultat reflète un peu le match quand même. Après, pour revenir sur Manchester, franchement, Onana, c'est plus possible. C'est très très compliqué.
Qui a été mis à la cave, hein, ce week-end.
Ouais, ce week-end.
Mais ça n'a pas changé grand-chose. Ils en ont pris 4 quand même.
Il a fait une erreur aussi.
Et ouais, Mudimir, je crois, il a fait. Ouais, mais Onana qui est fautif sur les deux buts. Sur le premier, il avance, on ne sait pas où il va. Et sur le second, il n'est pas capable de retenir une balle. Franchement, c'est...
En plus,
avec un gardien comme ça, c'est... Franchement, c'est compliqué. Hein.
C'est pas de l'acharnement.
Parce
que toi, à chaque fois, Onana...
Non, mais parce qu'en fait, ça fait très longtemps que je le trouve surcoté. Mais
à à l'Inter. À l'Inter, il était bon.
Mais quand tu
à l'Ajax, l'année où ils font leur parcours aussi.
Il a été très bon.
Ouais, mais même à l'Ajax, il y a des moments où je trouvais... J'ai du mal, en fait, avec son style de jeu. Et depuis qu'il est à Manchester, franchement, c'est catastrophique, quoi. Enfin, depuis qu'il est arrivé, c'est très, très compliqué. Hein. J'ai peu de matchs références de sa part. Peut-être en début de saison, il en a eu quelques-uns. Mais non,
après,
même
c'est
en...
peut-être la malédiction de Manchester, hein. Même Derrea.
Déjà, se séparer de Derrea comme ils l'ont fait pour récupérer Onana, je n'ai pas trouvé ça très correct.
Et parce que lui aussi, Derrea, c'était compliqué.
Ouais.
Après, c'est vrai que quand Derrea,
il a alterné le bon et le mauvais.
Ouais, c'est ça.
Quand tu es dans une mauvaise passe comme Onana l'est, va pas faire les déclarations que tu fais avant le match.
Ouais, c'est ça.
Ouais, ferme-la, ferme-la et attends.
Matic, pour le coup, j'ai pas trouvé ça très classe de sa part. Quand
c'est Onana qui a parlé en premier. Hein.
Oui, mais il a juste dit qu'il avait un meilleur effectif.
Voilà. Bah, il a dit personnel.
Il a dit aujourd'hui, dans l'état où on est, en gros, oui, on peut dire qu'on n'est pas favori ou quoi, mais sinon, dans un monde où on est en forme ou quoi, sur le papier, Manchester United sont largement au-dessus de Lyon, et c'est la réalité.
Parce
qu'on voit que même avec une équipe comme ça...
Ils l'ont pas prouvé ce week-end.
En plus, on voit... Oui, oui, non, mais oui...
T'es 12e de première ligue.
Mais en face, il y a Newcastle, c'est pas pareil.
C'est ça qu'ils ont
fait. En face, il y a les Magpies.
Pardon, ils sont 14e au moins.
Ouais, je sais plus combien.
14e ou 15e de première ligue. Et ils jouent quand même contre le 3e ou 4e de Ligue 1. Et ça fait 2-2, alors que c'est un match à l'extérieur. Donc, je sais pas moi, mais...
Mais c'est pour ça que pour moi, Lyon doit passer absolument. Et Lyon va passer parce que Lyon est meilleur. Lyon, ça footballistiquement, est meilleur. Et si
honnêtement, moi, ça m'étonnerait que Lyon passe.
Non, mais Lyon se doit de passer. Parce que
Lyon se doit de passer.
Si Lyon ne peut pas battre ce Manchester-là, je sais pas qui peut
passer. Après, sous-estimez pas Old Trafford.
Ouais, c'est ça.
Ouais, mais
c'est
les stades anglais, faut arrêter, il y a pas d'ambiance.
Ouais, non,
dans les stades anglais, c'est du c'est le début de match, les 5 premières minutes et après c'est cathédrale.
Mais après les stades anglais, c'est
à
pas
la 60e minute, tout le monde est bourré.
Non, mais tu vois bien le PSG quand ils vont à l'extérieur là-bas, on entend que les Parisiens parce qu'il y a pas d'ambiance en Angleterre.
Mais les stades anglais, c'est pas forcément l'ambiance qu'il faut retenir, c'est l'atmosphère.
Oui,
c'est ça qui est certaine pression,
c'est ça.
Mais c'est le côté mental de se dire je joue à Old Trafford contre Manchester et je pense que c'est ça qui leur a fait défaut à l'aller aussi à Lyon.
Ah oui.
Parce que si en face c'est un autre maillot rouge et c'est Lille ou Nice, je suis sûr qu'ils gagnent le match.
Ouais,
mais c'était le fait de se dire waouh, je joue contre United, c'est un quart de finale de Coupe d'Europe.
C'est une équipe prestigieuse.
Les mecs comme Cherki, Mikotadze et tout, ils se disent si c'est un soir pour me montrer, c'est là, c'est maintenant. Et donc je pense que c'est ça qui a joué contre eux. Mais moi je vois pas ce qu'ils ont envie à cette équipe de
Manchester.
Parlant,
ils ont rien envie. Après Manchester à domicile, on sait très bien comment ça fonctionne, surtout en Europa League.
En Europa League,
en
ça,
Europa League c'est, ça gagne à la maison.
Ouais, oui.
C'est pas beau à
avec
voir.
Avec un Bruno Fernandes.
Exactement,
aussi,
c'est pas meilleur, beau à voir, mais ça fait le boulot.
De loin.
Donc après, à Lyon, de.
Pour moi, ça jouera sur l'efficacité offensive. Après, et il va falloir qu'ils les mettent au fond parce qu'ils vont avoir des occasions. À l'aller, ils en ont eu d'ailleurs, Lyon. Et ils ont manqué de réalisme un petit peu. Là, il va falloir qu'ils soient très réalistes. Et, parce qu'en face, ça va l'être. Bruno, on l'a vu avec Zirkzee qui a marqué le but du KO là, à la 85e. Mais pour moi, Mikotadze et Lacazette, ça va être les hommes clés de ce match-là. Celui qui va démarrer, j'espère que ce sera Mikotadze. Et va falloir qu'ils les mettent au fond. Et, comment ?
Non, c'est obligé que Mikotadze débute. Que ça soit à gauche ou en pointe, c'est obligé.
Faut qu'ils mettent au fond Lyon. Mais sinon, offensivement, avec Cherki, avec Almada, avec des joueurs d'expérience, mine de rien, parce que t'as quand même des Tolisso, t'as quand même des mecs qui en ont vu un petit peu. Moussa Niakate qui a joué en Ligue des Champions, en Première Ligue, etc. C'est des mecs qui ont connu un petit peu ces types d'ambiance-là, ces matchs au couteau, à pression. Je pense que Lyon doit totalement regarder Manchester dans les yeux. Et allez, mon petit pronostic, c'est que Lyon va passer.
Pareil.
Ok. Pareil. Jason.
Moi, je dirais pas que Lyon va passer. Je sais pas trop me positionner sur ce match parce que, comme je vous ai dit, moi, c'est Old Trafford, ça reste Old Trafford. Et cette année, Manchester en Europa League, certes, c'est pas beau, mais à la maison, ça fait quand même le taf malgré des victoires pas belles, hein, comme contre la Sociedad. C'est pas beau, mais ça passe.
Et ils leur mettent quand même 4-1, je crois, au retour. Hein,
oui,
ou 3-0.
Mais quand tu les vois, c'est pas beau.
Oui, c'est pas beau. Ouais.
C'est pas beau. Et tu te dis, à chaque fois que tu vois Manchester, tu te dis, mais jamais ils feront ce résultat. En championnat, certes, c'est un autre monde pour eux. Ils ont du mal à s'en sortir. Mais en Europa League, je n'irai pas les mettre à la corbeille. Et concernant l'équipe que tu as dit, Bodo, moi, c'est une équipe que je suivais beaucoup, que je regardais beaucoup.
Merci, Jason.
Je connaissais, par exemple, Moubania, qui était avant d'arriver à Marseille. Je le connaissais. Il y a plein de petits joueurs qu'on signait à l'étranger. Il y en a même un qui a récemment été venu à Rennes, qui était très bon aussi. Et c'est une équipe.
C'était qui ? C'était Grønbæk ?
Grønbæk, ouais. Qui était aussi là-bas. Il y avait aussi le Milan qui avait récupéré un joueur aussi il y a 2-3 ans qui jouait là-bas. C'est une équipe qui forme de très bons joueurs. Et gagner là-bas, en Norvège, il fait, je sais pas, moins 10 ou moins
là,
13.
Il neigeait, tu joues sur synthé en plus. Donc, les mecs, ils n'ont plus l'habitude. Dans nos mois d'avril, tu vas jouer sur synthétique, le rebond, il est différent.
C'est différent,
les appuis sont différents, etc.
En plus, c'est un petit public chaud, un tout petit stade avec une petite ferveur. Et à domicile, ils sont très durs à prendre. Après, la Lazio peut renverser le match à la maison. Mais ça reste une équipe qui joue au ballon, Bodo. Donc, eux, ils sont capables d'aller marquer un but en Italie.
Et c'est ce qu'ils faut marquer un but en Italie.
C'est ça.
Et on met un but, on est quasi sûr de passer. C'est
exactement
ce qu'ils vont se dire. Hein. Parce qu'après,
il
faudra en prendre 4.
Avec une légère avance, avec 2 buts d'avance.
Ah, c'est quand même une bonne avance. 1-0, tu me dis encore, OK, faut qu'ils mettent le but. S'ils en prennent un, ils vont peut-être aux prolongations. Ils en mettent un sur contre, OK. Mais avec 2 buts... Moi, je pense que Bodo Glimt le font. Moi, je vois pas la Lazio, en tout cas, les battre avec 3 buts d'écart.
C'est
moi,
possible.
Je vois pas ça. Mais voilà. Voilà pour la Ligue Europa. Hein. Francfort-Tottenham, très rapidement.
Je vois Francfort passer et Tottenham, c'est trop, c'est trop irrégulier et c'est très faible.
Ah, j'espère que Francfort va passer, ouais.
Merci, messieurs. On va se faire une petite virgule avant de venir. Bah, Tottenham, c'est faible, hein, comme vous l'avez dit. On va revenir avec la Première Ligue. Hein. La Première Ligue, tout simplement, Manchester City qui ont renversé Crystal Palace. Hein. 5-2, hein, Manchester City qui commence à retrouver des couleurs. Grâce à la victoire de Arsenal face au Real Madrid, 3-0, ça a permis que la 5e place de Première Ligue soit directement qualificative pour la Ligue des Champions. Du coup, Manchester City sont 5e. Pour l'instant, mais ils sont qualifiés directement en Ligue des Champions si ça reste ainsi jusqu'à la fin de la saison. On y revient de suite. Manchester City qui se sont imposés 5-2 face à Crystal Palace, hein, malgré le fait d'être mené 2-0 depuis la 25e minute à peu près, c'était ça ?
21e minute.
Exactement, 21e minute. Merci Jason. Oui, avec un but de Eze et de Richard. Juste après, Kevin De Bruyne qui marque sur coup franc. Marmoush, Kovacic, McCarthy et Aurélie qui vient aussi marquer en fin de match. Ce qui permet à Manchester City d'être... 5e, hein, Newcastle qui sont 4e, mais Newcastle avec un match en moins qui sont imposés et qui ont étrié tout simplement cette équipe d'United 4-1. Liverpool qui se sont fait rejoindre avec une passe décisive de Mohamed Salah juste après un but de Van Dijk qui leur permet d'arracher la victoire, hein, et qui compte désormais 13 points d'avance sur Arsenal. Ce n'est plus qu'une question de temps avant que Liverpool soit champion, parce que Arsenal ont encore calé, hein. Arsenal ont fait un match nul avec ce petit turnover à domicile face à Brentford. Ils n'ont pas grand chose à jouer de toute façon, du coup il a eu ce gros turnover, et Arsenal qui ont fait 1-1 face à Brentford. Aston Villa qui se sont imposés face à Southampton avec deux pénaltys loupés de la part de notre Parisien Asensio.
Et le match ne reflète pas le score. Hein. Ça a été poussif, très
ouais,
poussif.
Ça a été très poussif, ouais, ouais. C'était même compliqué en première mi-temps.
Et les buts arrivent à la fin, ouais.
Ouais, c'est
buts,
ça. C'était très poussif.
C'est ça. Voilà pour la première ligue. Nottingham Forest qui enchaîne une deuxième défaite, hein, qui ont perdu face à Everton à domicile. Eux aussi doivent faire attention à leur siège, parce que deux matchs perdus comme ça, ils sont encore troisième, mais peuvent se faire dépasser par Newcastle si Newcastle s'impose ou font même match nul lors de la prochaine journée. Quelles sont vos impressions sur ces matchs-là, très rapidement, s'il vous plaît. Jason ?
Bah, faut souligner déjà un très, très gros match de Kevin De Bruyne, parce qu'il a annoncé son départ de Manchester City. Et faire une masterclass comme ça, franchement, je tiens à le souligner. Un très beau coup franc avec une belle passe D. Et il a remonté ses troupes, parce que moi, quand j'ai vu le 2-0, je me suis dit, allez, c'est reparti. City retombe dans ses travers. Et malgré tout, ils ont su nous montrer certains restes qu'ils avaient de l'époque. Donc, une belle remontada avec des jeunes joueurs qui ont été très actifs et qui commencent, je pense, à préparer l'année prochaine. Donc, avec Makati, Orei, on voit de plus en plus de jeunes
Nico
apparaître.
Aussi,
ouais, Nico, on voit de plus en plus de jeunes apparaître et une grosse équipe. Donc, et Arsenal, qui a été rejoint par un but de Wissa.
Ouais.
Qui brille beaucoup avec cette équipe de Brentford, avec le
soit
duo Moussa, avec Mbeumo,
soit Mbeumo, ouais,
voilà, leur duo, et Arsenal qui perd des points, mais bon, ça, je pense qu'ils sont plus focus Ligue des Champions.
Là, oui.
Donc c'était pas pour eux, c'était pas la priorité impérativement cette vie de gagner ce week-end. C'était plus de faire souffler les mecs et de faire le meilleur résultat possible contre Brentford. Et Southampton qui a donné du fil à retordre à Aston Villa. Aston Villa, qui a été dominateur dans le match, mais que ça a été très poussif, pas de fond de jeu, très compliqué, un match très redondant, très ennuyant, et qui s'est débloqué en fin de match avec deux pénaltys loupés de Asensio.
Ouais.
Donc après, c'est pour ça que je dis, face au PSG, je demande à voir si ça joue comme ce week-end. Donc je demande à voir. Et la victoire d'Everton face à Nottingham, franchement, moi, comme j'avais dit, hein, Nottingham, petit à petit, ils vont baisser en régime. Ils ne sont pas programmés de base pour jouer les premiers rôles. Donc, ça ne m'étonne pas qu'ils perdent quelques points en cours de saison. Et à souligner quand même la bonne remontada de Everton, qui depuis, avec leur nouveau coach, c'est très peu de défaites. Beaucoup de matchs nuls, mais très peu de défaites.
Ils sont 13e, hein, à égalité de points avec Manchester United. Voilà. Ibrahima ?
Oui, bah, par rapport à ce week-end de Première Ligue, on a pu voir encore la défaite de Tottenham.
Ouais.
Qui continue de s'enfoncer dans le classement. Et surtout, ce que j'ai retenu, moi, bah, c'est la défaite de Manchester. Hein, parce qu'en prendre 4 comme ça... Manchester qui s'est procuré beaucoup d'occasions, en plus, hein, durant ce match. Mais Zirkzee, Öljun, tout ça, en attaque, c'est franchement, c'est compliqué. Et bah, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on change de gardien, il refait la même erreur. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans cette équipe. Et je me demande même si Amorim, finalement, est-ce que c'est le bon coach pour cette équipe, je ne sais pas. Comme il arrive en cours de saison, je pense qu'il faut quand même lui laisser un peu de temps et la saison prochaine pour commencer. Mais la saison de Manchester est très, très, très compliquée. Un club comme ça n'a rien à faire à la 13e ou 14e place de Première Ligue. C'est assez affligeant quand même.
Merci Ibrahima. Mohamed Salah a signé un nouveau contrat avec Liverpool. Enfin, ça a été fait, un prolongement de 2 saisons. Mohamed Salah qui était tout content. Et voilà, du coup, qu'est-ce que t'en penses, Maxence ?
Moi, je suis assez surpris parce que je pensais qu'on allait à la fin de l'année se serrer la main et se dire voilà, merci pour tout et puis au revoir. Et puis que lui allait pouvoir avoir un autre projet, que ce soit dans le golf ou ailleurs en Europe. Je le voyais bien comme ça, sur une fin au top, on va dire. J'ai peur que ce soit une erreur, à vrai dire.
500 000 livres par semaine.
Les prolongations comme ça de superstars qui sont pas sur la fin, mais. 33, 34 ans.
Ah, mais là, il est en train de réaliser limite sa meilleure saison.
Mais c'est ouais, ça, le piège. Mais c'est moi, ça. Moi, je trouve que c'est un piège. Ouais. Ce ne serait pas le premier club à faire cette erreur-là. Parce qu'à mon avis, Van Dijk va enchaîner aussi sur une prolongation. Et pour moi, il fallait partir maintenant. Enfin, pour Liverpool, il fallait le faire partir maintenant. Là, ça va être l'année de trop. L'année prochaine, en plus, il y a la CAN qui va arriver au milieu. Donc, ça, là, sa priorité, ça va être la CAN, très logiquement, qu'il n'a jamais gagné. Et,
parce que ça compte. Hein.
Bah, bien sûr. Et à mon avis, Liverpool va passer au second plan sa saison prochaine et sa préparation va être faite par rapport à la CAN, etc. Moi, personnellement, c'est facile à dire, hein, mais avec ce salaire-là, à ces conditions-là, j'aurais renouvelé quelque chose en apportant, parce qu'avec ce budget-là, tu peux apporter une superstar de 10 ans de moins, plutôt
oh, mais qui
que...
De dispo, truc, peut-être Cole Palmer.
Non, pas Cole Palmer.
Qui te dit qu'au Real, il n'y en a pas un des trois que tu peux récupérer, tu vois. Par Rodrigo. Exemple, si l'année se passe mal, est-ce qu'un Rodrigo, tu peux pas le récupérer et faire ton projet autour de lui? Est-ce que un...
Ça me paraît compliqué.
Est-ce qu'un Julian, Est-ce qu'un Julian Alvarez, tu peux pas le récupérer?
Après, c'est pas le même poste.
Ouais, c'est pas le même poste. Non, et comment il est là?
Non, mais tu rebâtis ton attaque, tu vois. Tu rebâtis ton équipe autour de. Je sais pas. Mais moi, j'aurais pas prolongé ça là, à ce prix-là, à cet âge-là, à ces conditions-là.
C'est trop risqué.
Ça me paraît trop risqué par rapport à l'âge qu'il a et surtout ce qu'il a donné.
Moi, je pense qu'en fait, son salaire même que tu vas lui donner, etc., c'est pas pour ses prochaines saisons, c'est pour plus ce qu'il a fait, ce qu'il a apporté au club. Et jusqu'à maintenant, je pense que c'est sur la continuité.
Les prolongations de remerciements comme ça, ça me dérange un peu. À 500 000 la semaine, les remerciements, c'est cher quand même.
C'est plus une reconnaissance qu'un mérite, quoi, en fait.
Ouais, exactement.
C'est plus une reconnaissance qu'un mérite. Après,
c'est
aussi,
pour les supporters, ça leur plaît aussi, ouais, etc.
Après aussi, il y a Ancelotti aussi qui veut aussi, en fait... qui veut aussi, en fait, le gars de Newcastle. Isaac, qui veut aussi Alexander Isaac.
Par exemple.
Voilà, qui aimerait aussi bâtir aussi
un
nouveau projet.
Ils veulent le prendre, ils ont dit ça, c'est un autre truc.
Ouais, voilà, donc bâtir un nouveau projet autour de lui, en fait, oui, parce qu'ils en ont besoin.
Ils n'ont pas d'attaquant.
Un tueur comme ça, en fait. Je crois que ça, au moins, ça
mais là, Jota, cette saison, il a été un peu plus dans le dur avec les blessures.
Jota, Nunes,
c'est pas la peine. Non, moi, je ne le mets pas dans la même case, quand même, parce que Diogo Jota, quand il est en forme.
Ouais, Daniel Nunez, c'est moins. Daniel
si
Nunez,
tu regardes
moins,
sur sa saison, Jota, au final...
Oui, avec beaucoup de petites blessures.
Ah
mais,
ouais, mais ça commence Daniel à faire
Nunez,
beaucoup.
C'est
ça,
moins,
fait quoi,
par contre...
ça fait combien d'années il est là-bas?
C'est ça. Ouais.
C'est... Maintenant, Liverpool, ils ont besoin d'avoir un attaquant confirmé qui remplace Firmino. On n'a jamais vraiment eu le remplaçant de Firmino. Donc là, Isaac, ça serait... Tout le monde veut Isaac, de toute façon. Ouais, que ça soit Arsenal, c'est le joueur rêvé de Arteta, parce que c'est le joueur ultime.
Ouais, tu le mets à l'attaque, là, t'es sûr.
Voilà,
que
c'est l'attaquant complet.
S'il va à Arsenal, ça peut faire très mal, je pense.
Ah oui, c'est l'attaquant complet.
Je préfère le voir à Arsenal qu'à Liverpool, perso.
Moi, je préfère le voir à Liverpool qu'à Arsenal. Arsenal, avec l'équipe de losers qu'il y a, généralement, si tu veux pas...
Justement.
Attention, attends mercredi soir pour
faire
ça.
Permet de changer
non,
la balance.
Non, ça reste quand même, ça reste quand
même, même s'ils gagnent, ça reste quand même les éternels losers.
Ils prennent la Ligue des Champions cette année.
J'y crois pas
non plus.
L'année s'ils apprennent, en fait, en termes de tout ce qu'ils ont fait, en fait, même l'année dernière, le fait qu'ils gagnent pas la première ligue, ils courent après ce titre-là vraiment et qu'ils n'y arrivent pas. C'est pour ça que je
après, pour moi, ils ont pas non plus l'équipe pour rivaliser avec City l'année dernière, par exemple. Tu vois, là cette année pour gagner des champions.
Excuse-moi, mais l'année dernière, ils avaient 8 points d'avance sur City avec 2 matchs en retard.
Non, mais ça c'est le scénario. Je suis d'accord.
8 points d'avance avec 2 matchs en retard.
Sur le scénario, ils mouillent totalement. Mais par contre, au début de l'année, quand tu prends les effectifs comme ça, je mets pas Arsenal top 1.
Après, le truc, c'est que si c'est un choix de carrière, s'il va à Arsenal, c'est lui qui brillera au sein du collectif.
Exactement.
Mais s'il va à Liverpool, il y aura toujours ça là.
Il sera dans l'ombre.
Il est sur la fin.
À court terme.
Salah, il est sur la fin. Et Salah, il délivre beaucoup de passes décisives.
Salah, sur la fin, mais il est encore là pour 2 ans.
Oui, mais Saka, c'est l'enfant du club. Hein,
il n'a pas la même aura qu'un Salah à Liverpool.
Vous savez, mais il est très apprécié des supporters d'Arsenal quand même.
Ouais, mais Saka pourrait dire je donne des ballons à Isaac.
Exactement.
Ça ne dérangerait pas. Alors que Salah, non, Salah ne laisserait pas tirer les pénalties.
Exactement, c'est ce que j'allais dire.
D'où la raison pour laquelle il faut qu'il aille à Arsenal pour pouvoir non seulement essayer de tourner un petit peu.
Moi, je pense qu'il peut faire un braquage à la Mbappé. T'arrives au début, ok, pas de souci, c'est Salah. La star et après tu lui passes devant hein,
après
simplement.
2 ans c'est long hein.
Oui 2 ans oui, c'est long mais on connaît Isaac
oui
non mais si il va à Arsenal
surtout à 34 ans les blessures les trucs.
Ouais. En plus t'arrives dans un championnat que tu connais, toi tu vas pas jouer la CAN lui il va la jouer, toi tu seras là et pendant la CAN on sait que c'est très physique, on souhaite
c'est
ça
vrai,
mais
par contre
blesser,
Arsenal si tu gagnes le titre c'est ton titre.
Ah oui,
c'est
toi
qui
as
gagné le titre.
C'est exactement
à Liverpool si tu gagnes le titre, on l'a déjà gagné avant toi, ça y
est, ça sera le titre qui te permettra de passer devant United.
Mais par contre s'il va à Liverpool il passe un step,
c'est ça.
Oui, il passe un cap.
Non, c'est pas le même step,
c'est pas le même.
S'il va à Arsenal et qu'il est champion avec Arsenal, je vous assure qu'on en entend parler.
Oui, s'il est champion avec Arsenal, mais s'il va à Liverpool, je pense que même niveau, on va dire, je sais pas comment expliquer, en termes d'aura et en termes footballistiquement, même de stats, tout.
En plus, Liverpool, c'est le meilleur club d'Angleterre.
Il va prendre beaucoup
plus. Excusez-moi, je suis obligé de vous couper.
Il y a un quiz ou pas aujourd'hui?
Jusqu'à demain. Bah, Il y a un quiz hein, allez, de préparer, mais il reste 5 minutes et on doit parler de la Liga et on sait que Chetkenza aime beaucoup parler de Kylian Mbappé.
Elle est pliée la Liga.
Une courte virgule avant de venir avec la Liga.
Ouais, elle est pas pliée.
La Liga, le copain de Chetkenza, Kylian Mbappé, a pris un carton rouge avec une énorme faute. Voilà, mais ils sont quand même imposés 1-0 face à Alaves avec un but de Camavinga, un joli but de Camavinga d'ailleurs. Barça qui se sont imposés 1-0 face à Leganés, c'était poussif hein. Szczęsny qui a sorti pas mal de parades, qui a été d'ailleurs l'homme du match assez logiquement, mais qui ont assuré les 3 points et c'était assez logique. Atlético de Madrid qui sont en train de jouer maintenant et qui perdaient 1-0 face à Valladolid avant de renverser la tendance et avec un but de Julian Alvarez et de Simeone, pas le Cholismo mais son fils, qui ont permis à l'Atlético de Madrid de mener à la mi-temps 2-1. Voilà pour le classement, le Barça premier avec 70 points, Real avec 66, Atlético de Madrid avec 63 pour l'instant virtuellement en train de gagner. Du coup voilà, très rapidement alors, qu'est-ce que vous en pensez?
Rapidement en une phrase, pas de gros changements. Petite alerte au Barça par rapport au physique. Et j'espère vraiment qu'Hansi Flick va faire tourner, parce qu'il y en a marre de voir Yamal, Pedri pendant 90 Koundé. Minutes à tous les matchs. Koundé à la limite, il fait moins de différence offensive, mais Yamal, il est cramé. J'adore ce joueur, mais il est cramé. Si demain, il démarque contre Dortmund, franchement, c'est une faute professionnelle de Flick. À 4-0, laisse-le se reposer, laisse-le même à Barcelone si tu veux, mais il ne doit pas demain démarrer à Dortmund, surtout avec toutes les échéances que tu vas avoir. Ce n'est pas possible, il faut absolument qu'il fasse tourner.
Merci Maxence.
Moi de mon côté, bah, comme a dit Maxence hein, je pense que c'est un peu plié. Je pense que Barcelone va être champion cette année. Je vois pas le Real revenir. Et l'Atlético, je pense qu'ils ont tout perdu il y a quelques semaines là. Donc oui hein, et comme Maxence l'a dit, par contre il va falloir qu'ils fassent tourner, parce qu'un joueur comme Koundé, Yamal, etc., ça joue beaucoup trop là du coup. Donc, mais sinon je vois bien le Barça finir champion, et ce sera mérité au vu de la saison.
Merci Ibrahima. Non, on va pour le couper, parce que si lui on le laisse terminer, ça va être compliqué.
Faut qu'on fasse le quiz, les gars.
Bon, il y a du suspense, hein, à mon avis. Barcelone a pris vraiment une avance, une légère avance. Après, ça peut se jouer jusqu'à la dernière journée. Donc, mais ils sont mieux, en fait. Ils sont mieux préparés, en fait. Ils sont mieux outillés pour la gagner. Je crois que peut-être le Real aussi ne va pas laisser vraiment les derniers matchs. Mais en tout cas, il y aura du beau suspense. On va aller jusqu'au bout pour voir ce que ça va donner. Après, l'Atlético, pour eux, vraiment, ce serait un peu difficile de revenir déjà, parce qu'il y a pas mal de matchs qui ont été perdus et ils sont un peu dans le dur, même là, avec l'effectif et tout ça. Ce qu'ils proposent, c'est pas trop top. Après, le Real Madrid, c'est un peu décevant. Et Barcelone, pourquoi pas aller regagner le titre, mais je crois que le Real Madrid a aussi quelque chose à dire.
Merci, Chetkenza. On va enchaîner avec le quiz. Jason, ça te va? Comme c'est les deux J, on a un J sur le plateau, on a un J aussi à la technique. Du coup, c'est pour ça. On va enchaîner avec le 30 secondes chrono et avec avec le 30 secondes chrono, avec le minuteur tout simplement, et avec les questions qui vont débuter. Je rappelle les règles. C'est chacun, il répond. Quand je pose la question, chacun il répond une fois avant que les autres puissent répondre une deuxième fois.
Okay.
Le premier, c'est celui qui répond le plus rapidement possible. Première question. Qui remporte la Premier League en 2009-2010?
Chelsea,
oui. C'est le plus rapide de la première question.
Okay, okay.
Chelsea, tu pourrais me dire avec combien de buts marqués? Qui pourrait le dire? Vous avez une idée? Non.
Avec 58 buts.
Non. Oh, 58 buts pour gagner une Premier League.
C'est peu.
72.
Non. Après, c'est du hasard.
80
Ouais, non, c'est du hasard.
C'était 103. C'était 103 buts pour 32 encaissés. Hein. Et avec. Voilà, c'était ça. Du coup, on va enchaîner. Qui est le meilleur buteur de l'Euro 2000?
Trezeguet?
Non.
Raoul?
Non plus.
L'Euro 2000?
Attendez, on attend que les deux répondent. Non.
Moi j'ai pas.
Del Piero?
Non.
Totti?
Non plus.
Moi j'ai pas le joueur qui me vient en tête.
Kluivert?
Il y en a deux à égalité. Kluivert.
Ok.
Del Vecchio, non?
Non. Kluivert et il y avait. Je vous le donne.
La nationalité?
C'est un croate, il me semble.
Ah,
Suka.
Milosevic.
Ah,
wow. Ah ouais, non, j'avais pas.
Milosevic.
Non, je l'avais pas.
Milosevic avec 5 buts à égalité avec Patrick Kluivert en 2000. Qui a gagné la Ligue 1 en 2001?
Valence.
La Ligue 1?
La Ligue 1, Lyon.
Monaco?
Lyonnais. Non, perdu. Monaco. Non.
Bordeaux?
Non. Maxence? En 2001.
Nantes.
Nantes.
Merde.
Nantes. Nantes ont gagné en 2001 la Ligue 1. On va enchaîner avec une dernière petite question. Quelle est la pire attaque des 5 grands championnats?
Montpellier,
non.
Angers?
Non plus. La pire attaque des 5 grands championnats.
Alaves?
Non plus.
Augsbourg?
Non plus. Je n'étais pas très loin de
Southampton?
Non.
Le Rayo?
Non plus.
Fribourg?
Non.
Ah, ça, c'est un peu du hasard maintenant.
Attends, tu l'as dit.
Je crois que je l'ai.
Ah, oui.
Retafé?
Non plus.
J'allais dire Retafé.
C'est du hasard.
Non, c'est pas du hasard. C'est l'équipe qui a marqué le moins de buts.
Mallorca?
Non plus.
Everton?
Je vous le donne, sérieux?
Everton?
C'est en Liga.
En Liga.
Ah,
le Celta?
Les Ganes?
Non plus.
Le Celta Vigo?
C'est qui?
Non.
C'est qui?
Valladolid. Valladolid qui sont derniers, qui sont en train de jouer face à l'Atlético de Madrid. Valladolid avec 20 buts marqués.
Même avec leur but marqué, là,
ils restent derniers. Même avec leur but marqué, ils restent derniers. Voilà, voilà, c'était tout pour l'émission. Merci, Jay, à la technique. Merci à Ibrahima. Merci à Maxence. Merci à Jason.
Merci à vous.
Merci à Cheikh Kenza. Merci à vous, nos chers auditeurs et auditrices. Et on se dit rendez-vous la semaine prochaine. Non, parce que ça sera lundi de Pâques. On se dit rendez-vous dans 2 semaines. Prenez soin de vous, on va revenir avec un gros débrief dans 2 semaines. Prenez soin de vous et bonne soirée à vous.
Paris FM.